Grand format.
OGM, la grande manie. Je suis donc enseignant-chercheur en génétique moléculaire. Alors la génétique moléculaire, comme son nom l'indique, c'est l'étude au niveau moléculaire du fonctionnement des gènes. Et c'est une discipline de la biologie qui nécessite, comme toutes les disciplines scientifiques, d'utiliser un certain nombre d'outils, parmi lesquels il y a la technologie OGM, qui est avant tout un outil au service des chercheurs, avant d'avoir été décliné dans différents domaines d'utilisation et d'application. Donc j'enseigne cette discipline à l'Université Paris Sud, et je fais aussi, comme tout enseignant-chercheur et comme le nom l'indique également, de la recherche. Et à ce titre, donc, j'anime un groupe de recherche à l'Institut de génétique et microbiologie, qui est un institut mixte CNRS-Université, qui se situe sur le Centre scientifique d'Orsay. On fait des OGM en laboratoire depuis 1975-76. Ça repose en fait cette technologie sur tout un tas d'outils dont le chercheur a pu se doter en 25 ans. Entre 1950 et 1975, il y a eu tout un tas de découvertes depuis la structure de la molécule support de l'hérédité qu'on appelle l'ADN, hein, qui est le constituant chimique des chromosomes. Eh bien, ça c'était en 1953, et dans les 25 ans qui ont suivi, il y a eu tout un tas de découvertes qui ont doté le chercheur de tout un tas d'outils qui lui ont permis de manipuler le vivant, c'est-à-dire d'intervenir au niveau des chromosomes, au niveau des gènes des organismes. Donc ça remonte donc à cette époque-là, et ça a été ce qu'on appelait le boom de la biologie moléculaire. Alors le terme d'ailleurs de biologie moléculaire est extrêmement mal adapté, parce que biologie moléculaire, ça veut dire, mot à mot, faire de la biologie à l'échelle moléculaire. Mais ça ne présume pas des molécules sur lesquelles on travaille. Or, le terme biologie moléculaire a été spécialement réservé à ces chercheurs qui travaillaient à l'échelle moléculaire sur l'ADN et pas sur autre chose. Quelqu'un qui travaillait sur d'autres molécules du vivant que les chromosomes n'était pas qualifié de biologiste moléculaire. Alors, si je dis tout ça, c'est parce que ça a son importance, c'est pas seulement un détail de sémantique, c'est que derrière, ça traduit tout un effet de mode. Et tout un effet de mode qui est lié au fait qu'à un concept qui est totalement obsolète, mais qui reste malgré tout d'actualité, qui serait que les organismes seraient à l'image de leurs chromosomes, et que par conséquent, les chromosomes, ce serait le chef d'orchestre du vivant. Et que si on est capable d'agir sur les chromosomes, on est capable d'agir sur la partition du chef d'orchestre, donc de changer la musique. Autrement dit, ces outils dont le chercheur s'est doté entre 1950 et 1975 lui ont permis de, soi-disant, changer la musique, changer la partition, et donc de maîtriser le vivant, de modifier le vivant. En fait, on n'en maîtrise rien du tout, mais c'est toujours resté dans l'esprit encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on travaille sur les chromosomes, eh bien, on travaille sur les molécules nobles du vivant et on est capable de maîtriser le vivant. Et ça a des conséquences extrêmement importantes, puisqu'il suffit, par exemple, de modifier un morceau de chromosome pour avoir le droit de breveter non seulement le chromosome modifié, qui déjà en soi c'est très critique, on peut en discuter, mais du coup on modifie l'organisme entier, c'est-à-dire que l'organisme entier devient propriété de celui qui en a modifié un petit bout de son patrimoine génétique. Vous voyez, donc derrière tout ça, ça remonte donc à plus de 30 ans. Et donc c'est pas récent, mais le premier domaine d'utilisation de cette technologie OGM, ça a été d'abord le domaine de ce qu'on appelle la recherche fondamentale, c'est-à-dire une recherche qui a pour but de comprendre comment ça marche, hein, indépendamment de toute application. Et aujourd'hui encore, quand on fait de la recherche fondamentale en biologie, même si c'est une discipline en voie de disparition, eh bien dans la discipline de la génétique moléculaire, il n'y a pas une semaine qui s'écoule sans qu'on fabrique ou qu'on utilise un OGM. Le premier OGM qui a été fait en termes agricoles, puisqu'aujourd'hui, quand on parle des OGM, on pense aux OGM agricoles, et c'est depuis d'ailleurs que les OGM ont été introduits dans l'agriculture, c'est-à-dire depuis le début des années 90 que l'on en parle, et j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, mais ça s'explique très bien, c'est parce qu'à partir du moment où on met ça dans les champs et dans les assiettes, eh bien, ça concerne tout un chacun, hein, puisque tout ce qui va dans les champs, en termes de plantes agricoles, ça finit dans les assiettes, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire des animaux qui ont mangé ces plantes. Et donc, ça concerne tout un chacun, parce que nous sommes tous des consommateurs et nous sommes tous propriétaires de l'environnement. Donc, les OGM, ça existait bien avant. Et au tout départ, lorsque la technologie OGM a été, utilisée vraiment à sa naissance, dans le domaine de la recherche fondamentale, c'était pas plus américain qu'européen. Je veux dire, c'était un consortium. La technologie OGM repose sur tout un tas d'outils, je l'ai dit, qui ont été découverts sur une échelle de 25 ans. Et c'est pas un même laboratoire dans le monde qui a découvert tous les outils. Ça s'est fait. Il y a eu des laboratoires européens, il y a eu des laboratoires américains, il y a eu des laboratoires australiens. Donc c'est en fait un consortium de laboratoires dans le monde scientifique mondial, hein, à l'échelle du monde entier, même si effectivement, bon, peut-être les labos américains y ont peut-être un peu plus contribué en termes de nombre, ou les labos européens par rapport à d'autres labos d'autres continents, mais c'est pas spécifique aux Américains, c'est vraiment un outil. Vous savez, dans le monde de la recherche, il est bien loin le temps où une personne seule dans son laboratoire faisait la découverte du siècle, hein. Aujourd'hui, c'est un petit peu comparable à un match de foot, hein. On se souvient que du mec qui marque le but, mais pour que le ballon arrive dans l'avant-centre qui pousse la balle dans le fond des filets, il y a eu tout un tas de joueurs qui l'ont amené devant les filets. Bon, ben, c'est un petit peu ça aujourd'hui la recherche, c'est-à-dire qu'on se souvient souvent que de l'étape finale, mais c'est le résultat de toute une osmose à l'intérieur du monde entier. Donc on peut pas dire que c'est plus les Américains que les Européens, hein. Mais les outils en tant que tels, ça a été des laboratoires américains, des laboratoires européens, etc. Les outils qui ont permis de fabriquer ces fameux OGM. Alors ensuite, dans les déclinaisons, évidemment, c'est un laboratoire australien qui va faire le premier organisme génétiquement modifié dans tel domaine, après un laboratoire américain dans un autre. Mais après, c'est du coup par coup, effectivement, en termes d'application. Et notamment Monsanto avec des plantes, on y reviendra. Mais sinon, la technologie en tant que telle, elle a une paternité qui est cosmopolite. Quand on fait de la recherche fondamentale en génétique moléculaire, vraiment, il n'y a pas une semaine qui s'écoule sans qu'on utilise ou qu'on fasse un OGM. Alors, ça sert à quoi en recherche fondamentale ? C'est un outil parmi d'autres. Comme tous les outils, la technologie OGM a ses avantages, ses limites. Hein. Elle n'a pas d'intérêt si elle est utilisée toute seule. C'est comme une clé de 10, c'est indispensable, une clé de 10. Mais si vous n'avez qu'une clé de 10 dans votre boîte à outils, vous n'allez pas faire grand-chose. Ben, c'est pareil, la technologie OGM est intéressante, utilisée en complémentarité d'autres outils. Alors, la recherche fondamentale, ça a pour but de comprendre comment ça marche, indépendamment de toute application. Et donc, en biologie, comprendre comment ça marche, eh bien, c'est décortiquer les processus biologiques qui ont lieu dans les cellules qui constituent les organismes vivants. Les cellules sont en quelque sorte des usines, hein, dans lesquelles il y a des tas de chaînes de montage et de démontage. D'accord ? Sur ces chaînes de montage et de démontage travaillent en quelque sorte des ouvriers qu'on peut assimiler aux protéines. Hein. Les protéines sont vraiment en quelque sorte les ouvriers qui bossent dans nos cellules. Et le secret de fabrication des protéines est contenu dans les gènes. Et les gènes sont des portions de chromosomes donc, qui constituent le patrimoine génétique. Et donc, lorsque l'on veut décortiquer les processus biologiques, eh bien, il nous faut identifier les chaînes de montage et de démontage dans les usines. Et pour les identifier, pour les décortiquer, il faut remonter en quelque sorte aux ouvriers qui travaillent sur ces chaînes, c'est-à-dire aux protéines. Et comme le secret de fabrication des protéines est contenu dans les gènes, il nous faut identifier les gènes. Alors, on a différentes méthodes, différents outils, parmi lesquels la technologie OGM, parce que le fait de mettre un gène, par exemple, dans un organisme étranger, permet d'avoir des indices sur la fonction du gène, en fonction de ce que ça procure comme avantage ou comme désavantage à l'organisme qui le reçoit. On est parfois également amené à inactiver un gène pour voir les conséquences que ça a. C'est une approche classique en science. Pour décortiquer un système, on le perturbe et on voit les conséquences de la perturbation. Un petit peu comme dans un moteur de voiture, vous ne savez pas à quoi servent les bougies, vous les cassez, la voiture ne démarre plus. Vous dites, ah ben les bougies, c'est nécessaire à l'allumage. Et bien avec un gène, on a un peu la même démarche. Or, le fait d'inactiver un gène dans un organisme pour voir les conséquences sur l'organisme, c'est déjà faire un OGM. Dans ce cas-là, il n'est pas transgénique, parce qu'on n'a pas mis un gène étranger dedans.
Un OGM, c'est un organisme génétiquement modifié. Si on prend l'exemple d'un maïs, c'est effectivement un maïs qui serait modifié génétiquement et qui serait donc chimiquement pas naturel.
Ça veut dire que, selon moi, on a touché aux cellules du produit, quoi. Tout ce que je sais, c'est que c'est très débattu en ce moment et qu'il n'y a pas une seule version. Il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre et qui disent oui, c'est dangereux, d'autres non.
Donc c'est en fait des légumes ou des fruits ou des organismes de manière générale qui dont on a modifié finalement la composition pour accroître les performances ou la taille ou les bénéfices finalement pour le consommateur.
Un OGM, c'est un organisme donc génétiquement modifié, c'est un organisme vivant. Donc vivant, on pense à animal, mais ça peut être un végétal, ça peut être un microbe, dont on a modifié ses caractéristiques génétiques de façon non naturelle, c'est-à-dire par intervention de la main de l'homme, soit par suppression, par remplacement ou par addition d'un gène. Donc si c'est addition d'un gène, à ce moment-là, le gène étranger qu'on a additionné s'appelle un transgène et l'organisme résultant s'appelle un organisme transgénique, qui est donc un OGM. Mais vous pouvez faire un OGM qui n'est pas transgénique, simplement en inactivant un gène. Donc là, vous avez modifié les caractéristiques génétiques de l'organisme par suppression d'un gène sans pour autant avoir mis un gène étranger dedans. Donc un organisme génétiquement modifié n'est pas forcément transgénique, mais un organisme transgénique est forcément un organisme génétiquement modifié. Et donc en recherche fondamentale, pour comprendre la fonction d'un gène qu'on a identifié mais dont on ne sait pas à quoi il sert dans nos usines cellulaires, eh bien une des méthodes, c'est le coup de marteau sur la bougie, c'est-à-dire qu'on inactive le gène et on regarde quelles sont les conséquences sur l'organisme. Et le fait d'inactiver un gène, eh bien c'est faire un OGM. Donc, milieu des années 70, recherche fondamentale, et c'est toujours vrai aujourd'hui. Hein, et depuis le début des années 80, ça a commencé à se décliner dans un premier domaine d'application qui a été le médical et le pharmaceutique. Alors, il y a énormément de facettes d'utilisation des OGM dans le monde médical et pharmaceutique. En recherche médicale, classiquement, on utilise beaucoup d'animaux transgéniques ou génétiquement modifiés, pas forcément transgéniques, mais de manière générale génétiquement modifiés, en laboratoire, qui nous servent en quelque sorte de modèles pour étudier des maladies humaines, le sida, l'artérosclérose, la mucoviscidose, etc. Et puis, donc ça, c'est un domaine d'application, de recherche, enfin bon, mais appliqué au domaine médical. Et puis, un autre exemple qui nous concerne vraiment dans la vie de tous les jours, c'est la production de protéines médicaments. Les protéines, elles ont tout un rôle dans la nature, hein, je l'ai dit, ce sont en quelque sorte les ouvriers des usines cellulaires, qu'elles soient végétales, animales, microbiennes, mais parfois on peut les détourner de leur rôle naturel ou les exploiter pour en faire un médicament, c'est-à-dire pour soulager ou soigner un enfant, un adulte ou un animal. C'est beaucoup utilisé en clinique vétérinaire. Et lorsqu'on veut faire d'une protéine, un médicament, ben, il faut la produire en grosse quantité, puisque c'est qu'en général ça concerne un certain nombre de patients. Et pour la produire en grosse quantité, ben, une protéine, c'est pas facile, parce que c'est une très grosse molécule. Son secret de fabrication est contenu dans un gène et on ne peut pas la synthétiser chimiquement in vitro. Hein. Donc il y a deux solutions. Soit on va la chercher à la source chez l'organisme qui la fabrique naturellement, que ce soit un animal, un végétal ou un microbe, soit on utilise la technologie OGM pour la fabriquer. Ça consiste en quoi? Je vais prendre un exemple concret. L'insuline, par exemple, pour soigner les diabétiques, c'est la première protéine médicament qui a été faite comme ça. L'insuline est une hormone, et beaucoup d'hormones sont des protéines, c'est le cas de l'insuline, qui est fabriquée par le pancréas. Cette hormone est sécrétée, enfin, elle passe dans le sang, et elle permet de réguler le taux de sucre dans le sang. Et le sucre nous est apporté par l'alimentation, comme beaucoup d'autres choses, mais le sucre ne passe pas spontanément du sang dans les cellules, il lui faut une aide hormonale qui est assurée par l'insuline. Or, il y a des patients qui ne fabriquent pas assez d'insuline ou qui fabriquent une insuline anormale. Ils ont alors un taux de sucre dans le sang qui est anormalement élevé, pendant des temps beaucoup trop longs, avec les conséquences que l'on sait, qu'il y a le diabète insulino-dépendant. Et pendant très longtemps, on les a soignés avec de l'insuline de porc. On allait chercher chez le porc parce que l'insuline de porc ressemble comme deux gouttes d'eau à l'insuline humaine et qu'il y a très peu de maladies transmises du porc à l'homme. Mais le nombre de diabétiques augmentant dans les sociétés occidentales, eh bien, ça causait un problème d'approvisionnement. Il fallait zigouiller un très grand nombre de porcs pour satisfaire la demande, c'était pas simple. Et puis, en plus, il y a quand même une petite différence chimique entre l'insuline de porc et l'insuline humaine qui a fait qu'un certain nombre de patients qui s'injectaient de l'insuline de porc tous les jours, voire trois fois par jour, finissaient par développer une intolérance à l'insuline de porc. Et une solution, c'est la technologie OGM, c'est-à-dire qu'on a pris le gène humain de l'insuline, le gène humain qui détient le secret de fabrication de l'insuline humaine, qui est donc une protéine, je le répète. On a mis ce gène dans des bactéries, qui sont des bactéries qui vivent normalement dans notre intestin, mais donc qui sont très faciles à récupérer puisqu'il y en a plein dans les selles. Et on en a plein les laboratoires à moins 80 degrés de ces bactéries. C'est vraiment la mascotte du biologiste, du généticien moléculaire. Et on a mis le gène humain de l'insuline dans ces bactéries qu'on est capable de multiplier, d'entretenir à grande échelle dans des fermenteurs de 600 litres, très grande échelle. Et ces bactéries qui ont pris le gène humain, qui ont reçu le gène humain, le prennent à leur propre compte. Le décode, parce que le langage génétique est universel dans tout le monde du vivant, de la bactérie à l'éléphant, en passant par les humains, les autres animaux, les plantes, etc. Donc, la bactérie comprend le gène humain, capable de le décoder, de le décrypter, et donc de fabriquer la protéine correspondante, c'est-à-dire l'insuline. Et donc, ces bactéries, qui sont multipliées à très grande échelle dans les fermenteurs, deviennent de véritables usines à médicaments, d'usines à insuline. Et on va à ce moment-là pouvoir récupérer, parce qu'elles se multiplient toutes les demi-heures lorsqu'on les met dans des conditions idéales, 37 degrés, qui est la température de notre intestin, donc température où elles vivent normalement et qui leur convient parfaitement. On leur donne à manger tout ce qu'il faut, du sucre, de l'azote, des vitamines, et donc dans ce cas-là, elles se prolifèrent, et vous avez, les bactéries se multiplient toutes les demi-heures, donc si vous avez 1000 bactéries à un instant T, vous avez 2000 bactéries une demi-heure après, puis 4000, puis 8000, et puis 1 million, puis 2 millions, puis 4 millions, et donc très vite, au bout de quelques jours, dans les énormes fermenteurs, vous récupérez des dizaines de kilos de bactéries, qui toutes, parce qu'elles se sont multipliées à partir de celles de départ qui avaient le gène humain de l'insuline, le gène humain de l'insuline, et toutes vont donc fabriquer de l'insuline, et donc vous avez une tripotée de bactéries qui fabriquent de l'insuline, vous les récupérez, vous les éclatez, vous extrayez l'insuline, vous la purifiez, vous la conditionnez sous forme de médicaments et vous la distribuez via la pharmacie et via l'ordonnance à des patients qui souffrent de diabète, donc insulino-dépendants. Et donc, tous les diabétiques qui vont chercher leur insuline à la pharmacie, depuis 1982, elle est faite comme ça.
Dans les bactéries de l'intestin. Le vaccin de l'hépatite B, il a été fait dans les levures de boulanger, qu'on est capable de multiplier très facilement comme des bactéries en fermenteur, en laboratoire. L'EPO, par exemple, pour soigner les insuffisants rénaux ou pour doper les athlètes, l'EPO, elle est fabriquée dans des cellules d'ovaires de hamster chinois, qu'on utilise beaucoup dans les laboratoires pour ce genre de choses. D'autres protéines sont faites dans les cellules d'insectes. D'autres encore sont fabriquées dans les cellules de plantes, en fermenteur, des cellules de racines de tabac ou de maïs. Donc quand on nous fait croire aujourd'hui qu'on a besoin pour produire des protéines, médicaments, de le faire dans un maïs en plein champ, on nous roule dans la farine. Ça fait 25 ans qu'on fait des protéines, médicaments par technologie OGM et on n'a jamais eu besoin d'aller mettre la pharmacie en plein champ.
Alors, ce n'est pas que l'insuline, ça a été le premier médicament fait comme ça, mais aujourd'hui, c'est environ 15% de la pharmacopée. C'est-à-dire un médicament sur 6 qui a une barre rouge, je parle, quand je dis pharmacopée, je pense aux médicaments qui nécessitent une prescription médicale. Un médicament sur 6 de ces médicaments donc, qui nécessitent une prescription, eh bien, c'est une protéine que l'on appelle recombinante, c'est-à-dire des protéines fabriquées par technologie OGM dans des cellules qui ne sont pas les siennes, quoi. Et voilà, alors c'est le cas de l'hormone de croissance, c'est le cas de l'EPO pour soigner les, pas seulement pour doper les athlètes, mais pour soigner également les insuffisants rénaux, les personnes qui souffrent d'anémie sévère. C'est le cas des interleukines pour soigner le cancer, c'est le cas d'anticorps monoclonaux, de toute une tripotée de vaccins, et notamment des vaccins animaux également. Donc voilà, il y a énormément de protéines qui sont faites comme ça. Alors, c'est un outil intéressant, là aussi. Dans le cas de l'insuline, ça s'est bien passé. On a 25 ans de recul et ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de grave problème répertorié. Alors, quand je dis qu'on a 25 ans de recul, je dis ça non seulement parce qu'il s'est écoulé 25 ans depuis 1982. C'est parce qu'il ne suffit pas qu'il s'écoule du temps pour dire qu'on a du recul. Il faut pouvoir avoir un suivi. Et je dis ça parce que je vais y revenir sur les OGM, les OGM agricoles tout à l'heure, où on n'a pas ce suivi. Là, on a un suivi parce qu'il y a une ordonnance, c'est-à-dire qu'on sait qui consomme de l'insuline, qui n'en consomme pas, et ceux qui en consomment, on sait à quelle dose et à quelle fréquence. Et donc, s'il apparaît un grave problème secondaire, hein, les problèmes secondaires, c'est le propre de tous les médicaments, mais un grave problème secondaire, c'est-à-dire plus important que le bénéfice apporté par le médicament, eh bien, on a vite fait de faire la corrélation de cause à effet et éventuellement, s'il le faut, eh bien, de retirer ce médicament, c'est-à-dire d'arrêter de faire de nouvelles victimes, hein, qui parfois le payent même de leur vie. Alors, ça se fait pas aussi facilement parce qu'il y a des enjeux financiers énormes, parce que il y a également des pressions, des lobbies, etc. Mais en toute rigueur, on doit être capable de pouvoir faire la corrélation de cause à effet et de dire stop, on arrête ce médicament, quelle que soit la cause du problème, mais on sait qu'il y a une corrélation, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans le cas de l'insuline, on n'a pas eu de problème, ça s'est bien passé. Il y a d'autres médicaments qui ont été fabriqués par la technologie OGM pour lesquels il y a eu des problèmes, notamment un vaccin pour l'hépatite B qui a été fabriqué non pas dans des bactéries mais dans des levures de boulanger, parce que ça ne se fait pas toujours dans des bactéries. Hein. Parfois, on utilise des cellules de levure de boulanger qu'on est capable, comme les bactéries, de multiplier très facilement à grande échelle dans les fermenteurs. Parfois, on utilise des cellules d'ovaires de hamster chinois dans lesquelles sont faites l'EPO, par exemple. Hein. Elle est faite dans des cellules d'ovaires de hamster chinois. Vous avez des cellules d'insectes également qui sont utilisées. Des cellules de plantes. On peut faire dans des cellules de plantes, des cellules de racines de tabac ou de maïs, dans des fermenteurs. Hein. Alors, je disais que le vaccin de l'hépatite B, il a été produit dans la levure de boulanger. Ça s'est pas bien passé parce qu'il y a eu des cas de sclérose en plaques. On ne sait pas si c'est dû à la technologie OGM, c'est-à-dire à la manière dont on a obtenu ce médicament, ou à autre chose, aux adjuvants qu'on a rajoutés, etc. Toujours est-il qu'il y a un doute et donc qu'on devrait pouvoir retirer ce médicament du marché, puisqu'il s'agit d'un marché. Je dis on devrait pouvoir parce que ça n'a pas été fait encore, parce que là encore, il y a des pressions commerciales énormes. Alors, la cause n'est pas tranchée, mais je dirais que peu importe la cause, il y a un doute sérieux. Il y a eu des cas de sclérose en plaques et le dénominateur commun entre ces cas de sclérose en plaques, c'est la consommation de ce médicament. Quelle qu'en soit la cause, que ce soit la manière dont il a été obtenu, c'est-à-dire la technologie OGM en l'occurrence, ou que ce soit les adjuvants, une autre hypothèse, vous savez, les adjuvants, c'est tout cet enrobage que l'on met autour du médicament, autour du principe actif, pour faire en sorte qu'il soit assimilable par l'organisme, pour faire en sorte qu'il soit attrayant pour un enfant, par exemple, donne une couleur chatoyante, bon, des choses comme ça. Mais ces adjuvants, parfois, ne sont pas neutres. Hein. Bien souvent, ils ne sont pas neutres. Et notamment, apparemment, il y aurait eu parmi les adjuvants du vaccin de l'hépatite B des particules d'aluminium et qui pourraient être responsables des effets observés. Mais peu importe que ce soit à cause des adjuvants ou que ce soit à cause de la technologie qui a permis d'obtenir ce médicament, ça se résout après, c'est un problème de scientifique après. Mais au départ, on devrait dire, bon, ben, y a un doute, il y a une corrélation de cause à effet entre l'apparition d'un grave problème et la consommation. Bon, stop, on retire ce médicament, on va réfléchir après quelle en est la cause pour voir si on peut faire mieux et comment corriger le problème. Mais aujourd'hui, on est en train de débattre en disant, non, mais c'est peut-être pas la technologie OGM, mais il n'est pas là le problème. Ce que je veux dire, c'est que l'intérêt d'un médicament, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi, c'est qu'il y a un suivi parce qu'il y a une ordonnance et que c'est évalué au cas par cas. C'est pas parce qu'avec l'insuline, ça s'est bien passé qu'on va faire un autre médicament par technologie OGM et qu'on va dire ben parce que l'insuline ça s'est bien passé, c'est pas la peine de s'embêter à refaire une évaluation avec celui-là. Non, évidemment tout médicament est considéré comme un nouveau départ et il est réévalué de manière très rigoureuse sur des cellules en culture, puis sur des animaux, puis sur des humains, c'est ce qu'on appelle les tests cliniques, et enfin il y a un suivi avec l'ordonnance. Quand on nous dit par exemple que pour produire une protéine médicament il faut le faire dans du maïs en plein champ, comme veut le faire la société Meristem Therapeutics en Auvergne, filiale de l'Imagrin, pour produire une enzyme de chien destinée à soulager les enfants atteints de mucoviscidose, une enzyme qui digère les lipides, ça s'appelle une lipase, et qui est fabriquée normalement par le chien, et que là on produit dans le maïs. Quand on nous fait croire qu'on n'a pas d'autre solution que de la produire dans du maïs en plein champ, mais on se fout de nous. Ça fait 25 ans qu'on produit des protéines d'intérêt pharmaceutique par technologie OGM, sans avoir à mettre la pharmacie en plein champ, en laboratoire. Et parfois, effectivement, la plante, les cellules de plantes sont plus intéressantes que des cellules de bactéries ou de levures ou d'ovaires de hamster. C'est du cas par cas. Et si la cellule de plante s'avère être le meilleur système pour faire telle protéine, une protéine spécifique, qui peut être la lipase gastrique, par exemple, pour soulager les enfants atteints de mucoviscidose, eh bien, on peut le faire dans des cellules de plantes, mais sans avoir besoin de le faire dans des plantes en plein champ. On peut le faire dans des cultures de cellules de plantes. Donc on va bénéficier de l'avantage que représente le système plante sans avoir besoin de mettre ça en plein champ, mais en espace confiné, dans les fermenteurs. Il y a déjà aujourd'hui dans le monde plus de 25 protéines d'intérêt pharmaceutique qui sont produites dans des cellules de plantes en fermenteur pour différents niveaux d'essais cliniques aujourd'hui. Donc il y a nullement besoin de faire ça dans les plantes en plein champ, et donc il y a toute une tripotée de protéines faites comme ça. Voilà, donc point. Il y a donc moi, dans le cas de l'insuline, c'est ce que ça n'engage que moi, ce que j'aurais tendance à appeler un organisme génial et merveilleux, parce qu'effectivement ça s'est bien passé, mais encore c'est du cas par cas, il ne faut pas généraliser.
Un jour je débattais avec monsieur Houdbine de l'INRA de Jouy-en-Josas, qui se présente toujours comme quelqu'un qui n'a rien à vendre. Moi je suis ni pour ni contre, Coluche aurait ajouté bien au contraire, hein. Je suis ni pour ni contre, moi je suis le scientifique qui explique, donc forcément ses arguments valent plus cher que les miens. Sauf que ce mec, en réalité, c'est un véritable VRP des OGM, et c'est très pénible des gens qui n'assument pas leur position et qui se réfugient derrière une neutralité de la science qui n'existe pas.
Et il y a souvent un amalgame qui est fait. Un jour, je débattais sur France 5 avec Yves Calvi, et mon contradicteur, un collègue scientifique, dit à un moment donné, vous savez, les gens s'inquiètent des problèmes de santé qu'il pourrait y avoir avec les OGM, etc., les OGM agricoles, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils vont en chercher à la pharmacie depuis le début des années 80, ça n'aura jamais rien fait. C'est un énorme mensonge, parce que ce que vont chercher les patients à la pharmacie n'est pas l'OGM, c'est la protéine fabriquée par l'OGM. Ça ne veut pas dire que c'est sans risque, mais c'est au moins évalué de manière très stricte, rigoureuse, au cas par cas. Et ce n'est pas la même chose de manger une protéine fabriquée par OGM que de manger l'OGM lui-même ou des produits dérivés de cet OGM. Donc c'est un amalgame fallacieux qui est fait. Et c'est pour ça qu'on a besoin de donner un minimum d'éléments techniques pour éviter ces amalgames. Et pour dire, attention, il y a l'OGM utilisé comme outil qui n'est qu'un intermédiaire dans un protocole, et ce que va aller chercher le patient à la pharmacie, c'est le produit de ce protocole et non pas l'OGM lui-même, tout comme l'OGM qu'on utilise en recherche fondamentale. C'est une éprouvette biologique au service du chercheur, mais ce n'est pas une fin en soi. L'OGM n'est qu'un outil, n'est qu'un intermédiaire. On ne fait pas de l'OGM pour faire de l'OGM. C'est un outil. Alors que ce que l'on fait en plein champ avec les OGM agricoles, là, ce n'est plus un intermédiaire, c'est un organisme à part entière. Un maïs OGM, il a exactement le même devenir qu'un maïs conventionnel. Il est semé, il est cultivé, il est récolté comme un maïs conventionnel, il est mangé par les hommes ou par les animaux comme un maïs conventionnel. Donc ça, forcément, c'est plus un outil, c'est plus un moyen pour arriver à une fin, c'est une fin en soi et ça va poser des questions nouvelles. À partir du moment où on peut mettre un gène d'un organisme A dans un organisme B, tout est possible, et on peut imaginer toutes les applications que l'on veut. Alors, qui a eu l'idée au départ? Ce sont des firmes semencières qui ont eu l'idée, hein, qui ont eu l'idée de mettre des gènes dans des plantes pour leur conférer une aptitude à lutter contre un insecte. Alors, les firmes en question, je ne sais plus quelles étaient exactement. Okay. Toujours est-il qu'elles ont vite été absorbées par Monsanto. Monsanto était au départ une entreprise qui était en fait une entreprise chimique, hein, qui faisait des produits chimiques, notamment le fameux agent orange défoliant utilisé par la guerre du Vietnam, dont on voit encore les dégâts catastrophiques aujourd'hui.
Monsanto, donc déjà, historiquement, c'est une société qui a été créée, une société chimique qui a été créée en 1901, donc ce n'est pas une société récente, et qui avait mis notamment en place tout ce qui sont les PCB, donc qui servent notamment à l'isolation électrique. Ensuite, il y avait eu aussi l'agent orange. Donc au niveau des PCB, c'est intéressant de revenir dessus, puisqu'il y a eu beaucoup de scandales autour de ça, beaucoup de contamination, beaucoup de condamnations aussi de la firme Monsanto, donc il y a déjà un passé assez lourd au niveau de ces produits. Et dans les années donc 73, 70, 80 et surtout en 90, donc ont été développés ce qu'on appelle les organismes génétiquement modifiés, dont Monsanto représente 90% de la production actuelle.
Et il se trouve que Monsanto produisait également des pesticides, des herbicides pour tuer les mauvaises herbes, ce qu'on appelle les mauvaises herbes, notamment le fameux Roundup, hein, l'herbicide le plus largement utilisé dans le monde, qui est un herbicide qui tue toutes les plantes. Et il se trouve qu'il y a une firme semencière qui a eu l'idée de faire des plantes qui sont capables de tolérer un herbicide, c'est-à-dire de pouvoir l'absorber sans mourir. Et donc Monsanto arrivait au terme de des 20 années de brevets sur le Roundup. Et du coup, Monsanto perdait le monopole de ce produit, de ce principe actif, enfin, dont le principe actif est le glyphosate, hein, dans le Roundup. Et le moyen pour Monsanto de garder les bénéfices sur cet herbicide, ça a été de dire il faut qu'on achète le brevet des plantes qui tolèrent l'herbicide. Donc, notamment le Roundup. Comme ça, on va, en même temps qu'on va vendre la plante, En tout cas, on va continuer à garder un monopole sur le Roundup parce qu'on aura le monopole sur la plante qui tolère le Roundup. Et donc, en même temps qu'on vendra la plante, on vendra le Roundup. Et ils ont fait mieux. Ils ont, plutôt que d'acheter le brevet à la firme semencière qui voulait mettre au point ces plantes, ils ont carrément englouti la firme en question. Et Monsanto est devenue une firme semencière et qui, en très peu de temps, a eu 80% des brevets sur les plantes. Parce que qui dit OGM dit brevet. À partir du moment où vous bidouillez un gène dans une plante, c'est toute la plante qui vous appartient. Je reviens à mon point de départ de tout à l'heure. Hein, le gène molécule noble, soi-disant, molécule chef d'orchestre. Et donc, du coup, si on modifie la partition du chef d'orchestre, c'est toute la musique qui nous appartient. Donc, on modifie le gène dans un organisme, et du coup, c'est tout l'organisme qui vous appartient.
Aujourd'hui, on s'offre une balade dans un potager. Monsanto est une société américaine, leader mondial des semences, potagères, des herbicides, des défoliants, du lobbying et des actions en justice. Employant plus de 17 000 personnes et autant d'avocats, pour un chiffre d'affaires de plus de 7 milliards d'euros en 2006. Monsanto est leader dans la production de maïs, de soja, coton et colza. Bref, plein de trucs super bons pour la santé et en plus les leurs, ils sont super résistants. Sur le plan financier, Monsanto, c'est une valeur sûre. À la vitesse où vont leur acquisition et les budgets consacrés à la recherche, nul doute que l'action va encore progresser. Mais le plus cool chez Monsanto, c'est son histoire, avec des trouvailles exceptionnelles pour l'humanité tout entière.
Les principales plantes OGM qui ont été faites sont donc des plantes qui tolèrent des herbicides, comme ce qu'on appelle les plantes au Roundup, et qui sont des plantes qu'on a donc génétiquement modifiées pour devenir insensibles au Roundup. Le Roundup, normalement, il tue toutes les plantes. Une plante qui est génétiquement modifiée pour tolérer le Roundup va pénétrer dans la plante, mais au lieu de la faire mourir, la plante va supporter la présence du Roundup, du glyphosate, son principe actif, et du coup ne va plus mourir, donc va pouvoir absorber le Roundup. Et donc, l'accumuler, disons l'absorber, ça elle pouvait déjà le faire, mais elle ne va plus mourir, donc elle va pouvoir l'accumuler au cours de sa vie. Bon, l'intérêt, c'est que vous prenez du Roundup, vous voulez vous débarrasser des mauvaises herbes dans un champ de culture. D'accord. Si vous le pulvérisez sur l'ensemble du champ, vous allez tuer les mauvaises herbes, vous allez tuer votre plante d'intérêt aussi. Si vous faites des plantes qui sont tolérantes au Roundup, vous pouvez pulvériser sur le champ sans prendre aucune précaution, puisque les mauvaises herbes vont mourir, mais la plante d'intérêt, elle va absorber le Roundup comme les autres, comme les mauvaises herbes, sauf qu'elle ne va pas mourir. Donc, mais du coup, elle peut accumuler le Roundup et ça cause des problèmes sanitaires sur lesquels on pourra revenir. Mais Monsanto, du coup, ça devenait très intéressant pour lui, puisque du coup, il vendait la plante tolérante au Roundup et les personnes qui s'engagent, les agriculteurs qui achètent ces plantes tolérantes au Roundup, ces plantes génétiquement modifiées, non seulement s'engagent à racheter les semences tous les ans auprès du semencier puisqu'elles sont brevetées, donc ils n'ont pas le droit de récolter une partie, de garder une partie de leur récolte pour faire les cultures l'année suivante, ce qui se pratique chez un certain nombre d'agriculteurs, ce qui se pratiquait systématiquement autrefois. Et non seulement ça, mais un agriculteur qui achète des plantes génétiquement modifiées tolérantes au Roundup signe un contrat auprès de Monsanto dans lequel il s'engage à acheter le Roundup de Monsanto et pas le Roundup générique. Autrement dit, alors que les 20 années de brevets sont écoulées, Monsanto, à travers les plantes tolérantes au Roundup, continue à garder le monopole sur le Roundup.
On va la faire courte. À la base, Monsanto est une société de produits chimiques. C'est Monsanto qui a géré The Manhattan Project. Vous savez, le projet de développement de la première bombe nucléaire. Juste après, ils se lancent dans la production d'herbicides et d'insecticides. Produits qui ont fait leurs preuves pendant la guerre du Vietnam avec l'agent orange, hautement cancérigène. Mais il y a aussi les best-sellers, les hormones de croissance et les OGM. C'est quand même un super CV pour un agriculteur.
J'aurais pas dit chapeau, mais... chapeau.
Voilà, vous l'avez compris. Chez Morning Glory, comme on fait jamais rien comme tout le monde, on aime Monsanto. Ils ont quand même fait des trucs super, comme sponsoriser de nombreuses attractions à Disneyland, vendu leur première société à une jeune start-up nommée Coca-Cola, produit des tomates bleues et des épis de maïs de 3 mètres. En voilà des avancées pour les futures générations.
Le but, il est là. Quand on nous fait croire que c'est pour vendre moins de pesticides, évidemment, c'est totalement le contraire, puisque vous comprenez bien que quand vous avez des cultures qui sont tolérantes au Roundup, eh bien, l'agriculteur n'a plus besoin de prendre de précautions quand il pulvérise le Roundup, et ce qui, comme ce sont en général des grosses cultures intensives sur des énormes surfaces, et c'est très bien décrit dans le film Le Monde selon Monsanto de Marie-Monique Robin, on pulvérise comme ça se passe au Brésil, en Argentine, aux États-Unis, par hélicoptère ou par hydravion, et qu'avec des méthodes pareilles, on n'y va pas avec le dos de la cuillère. Et d'ailleurs, depuis que ces plantes ont été introduites dans la culture canadienne, américaine, brésilienne, argentine, eh bien, la consommation de Roundup a considérablement augmenté pour le plus grand bonheur du semencier. Donc voilà, on est dans. Donc au départ, ça a été bien sûr, et c'est toujours, une motivation commerciale. Moi, en tant que scientifique, je mets l'accent sur les aspects sanitaires et environnementaux, mais je dirais que le problème, il est en amont des problèmes sanitaires et environnementaux, c'est un problème beaucoup plus grave encore, qui est le seul intérêt pour les semenciers de faire des OGM, c'est de pouvoir déposer des brevets sur des plantes et donc d'avoir la main mise sur l'alimentation mondiale. Or, quand vous voyez qu'une firme comme Monsanto, qui va jusqu'à détenir 80% des brevets sur les plantes, et parmi lesquels il y a bien sûr les plantes qui sont très utilisées pour fabriquer les aliments animaux et les aliments humains, donc le maïs, le soja, le colza, et puis ils espèrent bien en faire autant avec le blé demain, et puis avec le riz, etc. Ça veut dire qu'on aura toute l'alimentation mondiale qui sera dans les mains d'une firme semencière majoritaire, mais qui ne sera pas la seule, elle a 4-5 firmes semencières dans le monde, et une firme semencière qui détient l'alimentation mondiale, elle n'a pas besoin de l'arme nucléaire.
On a des agriculteurs qui sont dépendants d'un système et qui sont aussi victimes du système. Ça me fait penser d'ailleurs à l'histoire, qui est la plus connue, mais il y en a eu d'autres, de Percy Schmeisser, au Canada, qui était un agriculteur de colza, il me semble, c'est du colza conventionnel, et qui a retrouvé dans son champ, par pollinisation, par le vent, etc., par dissémination, de colza transgénique. Voilà. Il a été attaqué par Monsanto, condamné d'ailleurs en première instance, tout simplement pour vol de brevets de Monsanto. Donc voilà, ça veut dire que les paysans aujourd'hui, ceux qui même font font de la culture OGM, sont contraints chaque année sous contrat, donc de ne pas garder les semences, et est obligé de racheter à Monsanto. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est en train de rendre les paysans dépendants entièrement d'une compagnie internationale, qui au-delà du côté financier, je pense que ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire comme il expliquait dans le film d'ailleurs sur le monde selon Monsanto, c'est on tient les paysans, donc on va tenir la nourriture et donc on va tenir les populations. C'est-à-dire qu'en fait, cet impérialisme, il va au-delà du côté financier. C'est l'impérialisme qu'on trouvait avant dans les guerres aussi, etc. Ils sont en train de tenir le monde entièrement. Ça va au-delà du côté financier. C'est aussi un aspect politique. Quelque part, c'est une nouvelle invasion.
On pourrait faire confiance à ce type de sondage si on était sûr que tous les citoyens qui répondent ont été informés, c'est-à-dire qu'ils ont reçu une formation contradictoire. D'accord ? Là, mais je ne suis pas inquiet parce que plus les gens sont informés, plus ils sont contre. Mais le fait est que beaucoup de gens disent « je suis opposé aux OGM », c'est plus par intuitif, hein, parce qu'il y a une méfiance du chercheur, et je les comprends totalement, hein, puisque quand on vous a dit rabâcher pendant des années que l'amiante, il n'y avait pas de problème, les farines animales non plus, les dioxines non plus, on a tendance à dire c'est les chercheurs qui nous amènent ce truc, donc on va dire non. Donc c'est tout à fait normal, mais c'est plus basé sur, c'est plus viscéral, intuitif, et donc ça aurait vraiment une valeur, ce sondage, s'il résultait d'une campagne référendaire. Hein, un référendum, donc il y a forcément une campagne avant avec une information des deux camps contradictoire et qu'ensuite les gens se prononcent. Et là, si on a toujours 80 ou 90%, là, ça aurait une véritable... C'est pour ça que je dis a priori, sont réticents.
Il faut savoir qu'actuellement, les Français ne veulent pas d'OGM. Un dernier sondage européen qui date de novembre 2008 indique que seuls 20% des Européens seraient prêts à manger des OGM. En France, plusieurs sondages ont également montré que les Français ne veulent pas d'OGM. Donc, les OGM ne se trouvent pas dans les produits à base de légumes. Le seul moyen actuel pour écouler tous ces stocks d'OGM, c'est de les passer dans le filière animal qui n'est pas étiqueté. Le fabricant a tout intérêt à montrer que son produit n'est pas composé d'OGM. C'est ce que recherchent actuellement les consommateurs. Nous, on a un gros travail d'explication, de pression auprès des politiques, de pression au niveau national, au niveau européen, notamment pour éviter que la Commission européenne lève des moratoires sur la présence de maïs OGM, par exemple en France. Il est très difficile de communiquer sur un OGM, rien que le nom est compliqué, expliqué. Nous, on est très souvent présents dans la rue, on fait des stands d'information. Et finalement, peu de personnes savent exactement qu'est-ce que c'est qu'un organisme génétiquement modifié.
Un OGM, c'est, si on prend l'exemple d'un maïs, c'est effectivement un maïs qui serait modifié génétiquement et qui serait donc chimiquement pas naturel.
Ça veut dire que, selon moi, on a touché aux cellules du produit, quoi. Tout ce que je sais, c'est que c'est très débattu en ce moment et qu'il n'y a pas une seule version. Il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre et qui disent oui, c'est dangereux, d'autres non.
Donc c'est en fait des légumes ou des fruits ou des organismes de manière générale dont on a modifié finalement la composition pour accroître les performances ou la taille ou les bénéfices finalement pour le consommateur.
De manière générale, le ressenti qu'on a, c'est dans la rue, une personne sur deux ne sait pas ce qu'est un OGM. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup d'incompréhension. Un organisme, qu'est-ce que c'est qu'un organisme? Est-ce que c'est animal, végétal, le mélange de tout ça? Et nous, notre difficulté, c'est en très peu de temps d'expliquer ce que c'est qu'un OGM et toutes les conséquences qu'il peut y avoir sur l'économie d'un pays, sur l'environnement, sur la santé. Donc j'ai aussi l'impression que les grandes firmes jouent un petit peu sur le côté technologie. On va dire, voilà, c'est une nouvelle science, c'est très bien. On va mettre des noms très techniques, très difficilement compréhensibles. Et en fait, on va se dire, voilà, les personnes vont pas oser demander parce qu'on n'ose pas. On se rend bien compte, nous, dans la rue, les personnes ont... On n'est jamais trop à l'aise de dire « Ah ben je sais pas, je comprends pas ». Et la grosse problématique des OGM, c'est rien que le terme. On devrait parler de produits génétiquement modifiés. Donc là, on comprend bien. C'est-à-dire que dans des fraises, on va mettre des gènes de poisson. Et quand on explique ça à une personne dans la rue, elle se dit déjà « Aïe, mais qu'est-ce que je vais manger ?»
L'argumentaire du pro-OGM, c'est surtout, et notamment celui qui arrive à séduire l'agriculteur, parce que c'est pour que ça se vende, il faut qu'il y ait des agriculteurs qui acceptent de les cultiver. Et on nous dit, mais il y en a de plus en plus tous les ans, donc c'est bien que ça intéresse les agriculteurs. Mais l'argument de vente, c'est la facilité de travail, parce que ça concerne les agriculteurs qui font de la culture intensive. Or, on a affaire aujourd'hui à des OGM agricoles qui sont à plus de 99% des plantes pesticides. Un pesticide, c'est le terme générique qui englobe insecticides, fongicides, herbicides, etc. Donc, vous avez les plantes tolérantes au Roundup ou au Liberty, un autre herbicide à large spectre qui n'est pas fabriqué par Monsanto, lui-même par Bayer, qui fabrique les plantes qui tolèrent la Liberty, comme quoi le monde est bien fait, hein, à chaque fois. Donc ça représente environ 70% des plantes OGM. Hein. Ce sont des plantes donc, qui vont accumuler un herbicide dans leurs cellules puisqu'elles peuvent l'absorber sans mourir, comme je viens de l'expliquer. Et puis vous avez une autre catégorie de plantes qui sont les plantes qu'on appelle BT, qui, elles, produisent un insecticide en permanence. C'est-à-dire qu'on leur a mis un gène d'une bactérie du sol dont les initiales sont BT, bacille de Thuringe, c'est pour ça qu'on parle de plantes BT. Et cette bactérie, elle a des gènes naturels à elle qui détiennent le secret de fabrication de protéines tueuses d'insectes. Et donc, en fonction de la protéine considérée, eh bien, l'insecte visé n'est pas le même. Donc, notamment, si je prends l'exemple du maïs BT Monsanto 810 qui fait l'actualité en Europe et en France en particulier, eh bien, c'est un maïs dans lequel on a mis un gène de cette bactérie qui détient le secret de fabrication d'une protéine tueuse de pyrale. La pyrale étant un papillon crépusculaire dont la chenille fait des dégâts dans le maïs. Eh bien, ce maïs prend le gène de la pyrale, puisqu'on lui introduit à son propre compte, le décode et fabrique lui-même la toxine et n'a plus besoin de personne pour se défendre en quelque sorte contre la pyrale. Et donc, du coup, il va produire l'insecticide en permanence et donc l'accumuler dans ses cellules. Et donc, il y a du maïs BT et du maïs BT qui lutte contre la pyrale ou contre d'autres insectes. Il y a le maïs Monsanto 863 qui a été évalué en Allemagne qui lutte contre un autre insecte qui s'appelle la chrysomèle. Vous avez du coton BT, vous avez du colza BT, du soja BT, de la betterave BT. Bon, il y a plein de plantes BT, ça représente environ 30% des plantes OGM. Donc vous voyez 30% de plantes qui produisent en permanence un insecticide donc qui accumule un insecticide, qui sont donc des plantes insecticides et donc des plantes pesticides. Et puis environ 60% de plantes qui accumulent un herbicide parce qu'elles peuvent l'absorber sans mourir, soja au Roundup, plantes au Liberty, etc. Et puis il reste 10% pour arriver à 99%. Les 10%, c'est des plantes qui font les deux, c'est-à-dire soit qui produisent un insecticide et qui absorbent un herbicide, ou voire qui produisent deux insecticides et qui absorbent un herbicide sans mourir, ou qui produisent un insecticide et qui tolèrent deux herbicides sans mourir.
Alors, on peut prendre l'exemple du coton BT en Inde. Déjà, il y a eu une sorte d'arrivée massive de coton BT qui font que qu'il était pour eux visiblement plus intéressant. On leur disait, oui, il y aura moins de traitements, moins d'insecticides, etc. Donc, ça sera plus intéressant pour vous. Donc, ils se sont tous jetés là-dedans. Et ce qui a fait qu'il y a eu moins de demandes du coton traditionnel. Et donc, les paysans ont été obligés, vu que le coton traditionnel devenait plus rare, il devenait plus cher. Donc, ils se sont tous rabattus vers les cotons BT donc de Monsanto. Finalement pour rentrer dans une spirale, et la spirale les a conduits. Alors, au début, on voit une sorte de rêve, de choses, tout va être beaucoup plus simple, vous aurez moins à travailler, etc. Donc on leur fait miroiter plein de choses, et à la fin, finalement, pour voir qu'ils endettement, parce qu'ils ont acheté, ça fait penser d'ailleurs beaucoup à tous les endettements qu'on a pu avoir des paysans en France par rapport aux éleveurs, par rapport aux élevages industriels, etc. C'est le même processus. Et aujourd'hui, on a énormément de suicides en Inde, notamment suite parce que les agriculteurs ne peuvent plus, ils s'endettent, etc.
L'argument des pros sur le plan des semenciers ou même sur le plan des agriculteurs ou même de certains scientifiques, bien ça facilite le travail pour l'agriculteur parce que quand vous n'avez plus besoin de pulvériser un insecticide parce que la plante le produit elle-même, bien évidemment l'agriculteur n'a plus besoin de pulvériser, donc il n'a plus besoin de mettre des tracteurs dans le champ, donc c'est moins de passage, il va économiser du gasoil, il aura moins d'ouvriers à payer, etc. Et en plus il va avoir le sentiment d'être écolo en quelque sorte, d'être propre, hein, puisqu'il n'en met plus. Alors il peut être sincère et honnête quand il dit ça parce qu'il sait pas tout ce qu'il y a derrière, mais le problème c'est que la plante le produit en permanence, hein, que l'insecte soit là ou pas d'ailleurs, la plante le produit en permanence, et les premières estimations qui ont été faites, c'est qu'à l'hectare, les plantes BT qui produisent un insecticide en permanence en produisent environ 500 fois plus que ce que l'agriculteur pulvérise dans la méthode conventionnelle, 500 fois plus à l'hectare. Hein, mais effectivement, et en plus il va avoir ce sentiment, donc il va avoir vraiment le sentiment de bien faire, hein, mais c'est avant tout l'argument qui va séduire l'agriculteur intensif dans ce cas-là, c'est la facilité de travail. De la même manière qu'une plante qui tolère un herbicide, vous imaginez, alors qu'il fallait prendre des précautions, vous étiez obligé soit d'utiliser un herbicide sélectif moins efficace en quelque sorte, soit d'utiliser un herbicide général, mais alors il fallait le pulvériser en quelque sorte dans la main, parce que si vous le pulvérisez trop pied de la plante d'intérêt le pompe et le meurt. Et elle meurt. Et donc là, vous avez une facilité de travail, vous pulvérisez par hélicoptère ou par hydravion. Donc ça, c'est l'argument qui séduit l'agriculteur. C'est-à-dire qu'en fait, on dit que l'agriculteur va gagner plus d'argent. C'est pas sur le produit lui-même qui va gagner plus d'argent, pas du tout, c'est pas sur les rendements améliorés, c'est sur le fait qu'il aura moins d'argent à débourser parce qu'il n'aura pas à payer un grand nombre de personnes pour faire un grand nombre de passages dans les champs, qu'il aura moins de tracteurs dans son champ à tourner, etc. Donc c'est en termes de dépenses que ça va être intéressant pour l'agriculteur. Donc ça séduit des agriculteurs intensifs. Maintenant, a-t-on le droit, au prétexte d'une facilité de travail d'une minorité d'agriculteurs qui certes exploitent une majorité de surface, de faire courir des risques inconsidérés et de prendre les citoyens pour des cobayes et la planète pour une paillasse de laboratoire. Il est là la question. Et on le disait à l'instant avec les insecticides, on a affaire à des plantes qui produisent en permanence l'insecticide. Et donc cet insecticide, qu'est-ce qu'il devient dans l'environnement? Qu'est-ce qu'il devient chez l'animal qui mange la plante? Qu'est-ce qu'il devient chez l'homme qui mange l'animal qui a mangé la plante, ou qui mange chez eux, ou qui boit son lait, ou qui mange sa viande? Voilà toutes les questions que ça pose. On peut parfois me reprocher de dire, vélo, d'accord, c'est un scientifique, il vient nous expliquer les OGM, mais il prend position. Mais oui, parce que je considère que c'est mon devoir de scientifique et de citoyen de dire haut et fort quand on fait... Si je pense qu'on fait tout et n'importe quoi avec la science ou avec ses applications. Et en matière d'OGM agroalimentaire, on fait tout et n'importe quoi parce qu'on est dans une carence d'évaluation. On n'a aucun suivi sur le long terme, même sur le court terme d'ailleurs, des animaux qui ont mangé les OGM. Aujourd'hui, on a des expériences grandeur nature qui sont faites depuis 15 ans. puisque les États-Unis s'y sont mis depuis le début des années 90, le Canada, le Brésil, l'Argentine. On pourrait dire, ben, au moins, on va tirer profit de leur expérience grandeur nature et peut-être pas faire les mêmes conneries qu'eux. Mais on ne peut pas tirer profit. On peut tirer profit sur l'environnement, parce que les dégâts environnementaux des OGM, je vais y revenir, ça se sait et ça se voit. En revanche, sur les effets sanitaires, que ce soit sur les animaux et sur les humains, eh bien, je reviens avec mon ordonnance de tout à l'heure. Il n'y a pas d'ordonnance. Qui peut dire qui a mangé les OGM ou qu'on n'a pas mangé ? Personne. Les Américains peuvent au moins lever la main en disant « Oui, j'en ai sûrement mangé, mais à quelle dose, à quelle fréquence ?» Donc, quand on voit le mal qu'ont les gens qui ont travaillé 30 ans dans un bâtiment bourré d'amiante à prouver que leur cancer du moumon est lié à l'amiante, on imagine le mal qu'aurait quelqu'un qui serait victime d'un problème sanitaire lié à la consommation d'OGM à prouver que c'est lié à la consommation d'OGM, étant donné qu'il n'y a pas de corrélation de cause à effet possible, puisqu'il n'y a pas de suivi, et on ne sait pas qui en a mangé, qui n'en a pas mangé, etc. Donc, et les animaux, pareil, on n'a pas de suivi des animaux sur plusieurs générations qui ont été nourris avec des OGM. Vous savez, les quelques tests rares qui ont été faits sur les herbivores, sur les animaux d'élevage qui mangent des OGM, hein, c'est 14 jours. Notamment, il y a eu des tests avec le BT-176, un maïs BT de Saint-Jeanta, je crois, qui est un maïs donc, qui lutte contre un insecte, la pyrale également. Eh bien, ça a été 4 vaches pendant 14 jours.
Aujourd'hui, on n'a aucune connaissance sur l'impact d'une grosse consommation de produits OGM par ces animaux sur leur santé. Donc, on met sur les étalages des produits... dont les animaux, des produits issus d'animaux qui ont consommé des OGM, sans connaître l'effet sur les animaux, sur la santé des animaux, sur la santé humaine des personnes qui vont manger ces produits-là.
Il y a une vache qui est morte la deuxième semaine. Le constat vétérinaire, c'est qu'elle est morte par étouffement, ce qui est possible. Hein. Mais on a continué avec 3 vaches. Et au bout de 14 jours, on fait une prise de lait, une prise de sang, une prise d'urine, et puis ça s'arrête là. C'est pas sérieux. Et sur les aspects sanitaires, pour les humains, alors évidemment, on ne fait pas des tests sur des humains, on fait des tests sur des animaux qu'on considère comme être un bon modèle pour l'humain, qui est en général le rat, hein. Eh bien, on est dans une carence totale d'évaluation. On a affaire à des plantes qui accumulent des pesticides. La moindre des choses serait qu'elles soient évaluées au minimum comme des pesticides, puisque l'animal qui les mange et l'homme qui les mange ou qui mange l'animal qui a mangé la plante va être confronté à ce pesticide. Eh bien, on est dans une carence totale d'évaluation parce que les pesticides, eux, même si c'est insuffisant et ça l'est certainement, ils sont évalués pendant 3 mois sur 3 espèces animales différentes, dont le rat et la souris, plus des tests à 1 an et à 2 ans sur le rat, en plus des tests à 3 mois. Pourquoi jusqu'à 2 ans sur le rat ? Parce que c'est la durée de vie d'un rat, 2 ans. Et donc, en faisant des tests sur 2 ans sur le rat, on voit les effets tout au long de la vie, c'est-à-dire les effets chroniques. Alors qu'à 3 mois, on voit essentiellement que les effets aigus. Alors, je ne dis pas que c'est suffisant pour les pesticides. Il faudrait faire des tests sur des femelles en gestation. Il faudrait faire des tests des dosages hormonaux, parce qu'on sait que les pesticides sont des perturbateurs endocriniens. Il faudrait analyser la descendance des femelles en gestation qui ont été nourries avec le pesticide, etc. Donc, c'est insuffisant, mais ça a au moins le mérite d'être cadré. Au niveau européen, c'est la directive 91-414 qui définit ce cadre d'évaluation minimum des pesticides. 3 mois sur 3 espèces animales, plus 2 ans sur le rat. En ce qui concerne les plantes OGM, ça n'a jamais, dans le cadre des évaluations officielles, dépassé 3 mois sur une seule espèce animale, le rat ou la souris.
La Commission européenne cherche à lever le moratoire sur le Monsanto 810 en 2009. Alors actuellement, Greenpeace essaye de mettre en évidence certaines études. Une étude récente, par exemple, montre des problématiques sur la reproduction de souris nourries par ces OGM, notamment sur la deuxième, troisième génération. Donc là, nous, on pose la question à Monsanto ou à tous les tests qui valident ces OGM. Comment avez-vous validé vos tests ? Actuellement, beaucoup d'études montrent montre des problématiques suite à l'ingestion d'OGM. Nous, on veut des études sérieuses, on veut des études sur le long terme, et tant qu'on n'a pas ces éléments-là, au nom du principe de précaution, stoppons les OGM.
Alors pourquoi c'est très clair ? C'est que les firmes semencières disent elles-mêmes que si demain on leur obligeait à évaluer les OGM comme le sont les pesticides, ça n'a plus aucun intérêt financier pour elles. Voilà. C'est-à-dire que le temps que demande l'évaluation scientifique n'est pas compatible avec l'urgence des brevets et des profits. Et donc on fait primer le profit. Et c'est ça que moi, en tant que scientifique, en tant que citoyen, je dénonce. Comment un élu qui se veut garant de la sécurité sanitaire des citoyens, peut voter un texte de loi comme ça s'est fait en France avec la transposition en droit national de la directive européenne 2018, donc récemment à la suite du Grenelle de l'environnement. Comment on peut voter quand on est élu un texte dans une telle carence d'opacité et d'évaluation? Parce que le texte français, je ne connais pas bien dans, le contenu de projet de loi allemand, mais le texte, je sais qu'il est beaucoup plus contraignant que le texte français. Mais le texte français, en tout cas sur l'environnement, il est beaucoup plus contraignant, c'est sûr. Sur l'aspect sanitaire, je ne connais pas bien. Mais en France, il n'y a absolument dans le texte de loi, là par contre, je le connais bien, je l'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup débattu à l'Assemblée nationale et au Sénat dans le cadre de discussions parlementaires, eh bien, il n'est absolument pas mentionné quoi que ce soit sur la nature des laboratoires qui font les tests. Or, qui font les tests? Les laboratoires choisis par les firmes semencières au nom du secret industriel. Ça, ça n'a rien de changé dans le texte français, ça veut dire que ça va continuer comme ça. Donc, conflit d'intérêts de la part des laboratoires qui font les tests. Et à chaque fois qu'on veut accéder aux résultats des tests, on nous oppose le secret industriel. Donc, il faut des batailles juridiques et administratives monstrueuses, comme ça s'est passé d'ailleurs en Allemagne, ben, comme quoi ça se passe de la même manière là-bas, sur les aspects sanitaires. Ce Greenpeace Allemagne a voulu avoir accès aux tests sanitaires demandés par l'Allemagne sur le Monsanto 863, un maïs BT qui permet de lutter contre la chrysomèle, à Monsanto. Donc Monsanto a fait faire des tests à 3 mois par un laboratoire choisi par Monsanto, et Greenpeace Allemagne a voulu avoir accès à ces tests. Et on leur a dit non, secret industriel. Et Greenpeace Allemagne a saisi la Cour de justice allemande, et c'est la Cour d'appel de Münster qui a donné raison à Greenpeace. Et grâce à Greenpeace Allemagne, on a pu avoir accès aux données brutes de ces tests. Donc il faut surmonter, il faut des batailles juridiques et administratives monstrueuses pour avoir accès aux tests, des tests 3 mois. Donc on est vraiment dans un lobbying industriel, dans des intérêts économiques énormes qui font qu'on fait passer au second plan l'intérêt sanitaire. Et donc je disais, je ne comprends pas comment des élus qui se veulent d'être les garants de la sécurité sanitaire des citoyens peuvent faire voter un projet de loi en l'état, dans une telle carence d'opacité et d'évaluation, c'est-à-dire placer officiellement les intérêts des firmes semencières à la remorque de la santé publique.
Monsanto a une méthode particulière, c'est des directeurs de Monsanto, des gens de Monsanto vont être placés donc au ministère de l'Agriculture américain, vont être placés dans les administrations, vont être placés dans les congrès, dans les députés, etc. Et donc, en fait, ils placent leurs pions. Ou alors, des personnes qui sont députés, qui sont ministres, vont passer au niveau des directions de Monsanto. Et en fait, on a une chaise musicale. Donc, finalement, que des gens qui sont à la fois jugés partis. Donc, c'est un petit peu ce qui ressort de Monsanto, notamment aux États-Unis, dans ses méthodes. On ne sait pas aujourd'hui du tout l'impact des OGM sur la planète, sur l'environnement. Aujourd'hui, il faut se rendre compte quand même qu'avec les OGM, il n'y a pas de recul suffisant, il n'y a même pas de recul du tout. Et on est aujourd'hui les cobayes. La planète, donc l'humain, mais aussi toute la planète, est aujourd'hui un terrain d'expérimentation. Donc on a la force des arguments, Greenpeace a cette force des arguments. Elle a cette force aussi de pouvoir rencontrer les politiques pour leur expliquer. Mais après, il reste toujours l'intérêt quand on voit qu'il y a des scientifiques qui indépendants qui ont fait des études par rapport à des produits, des organismes génétiquement modifiés, qui ont montré qu'il y avait de gros points d'interrogation, voire de gros bémols par rapport à des effets potentiellement cancérigènes, allergènes, etc. Que ces scientifiques qui étaient pourtant indépendants ont été directement appelés par le gouvernement. Donc, je pense notamment en Écosse où ça s'est passé. Il y a eu différents cas. Et pour finalement être viré de leur laboratoire. Aujourd'hui, c'est vrai que de plus en plus de scientifiques ont peur d'exprimer leur inquiétude. Donc c'est souvent les personnes en fin de carrière qui osent parce qu'ils n'ont plus grand-chose à risquer. Il y avait ce cas notamment d'un groupe de chercheurs qui avait lancé des révélations qui étaient un petit peu embêtantes pour Monsanto par rapport au niveau santé avec plein de bémols, notamment suite à des essais sur les animaux. Il y a eu des démentis comme quoi, donc c'était un article qui était sorti dans The Nature, et il y a eu des démentis par Internet, notamment de chercheurs, soi-disant, qui disaient que c'était une aberration ce qui était dit, que le protocole mis en place pour ces études était totalement fou, etc. Et en fait, il s'avère qu'en fouillant, ces chercheurs n'existaient pas et étaient finalement des gens de Monsanto et directement la seule de Monsanto. C'est-à-dire que Monsanto, aujourd'hui, est prêt à une sorte de diffamation et à faire couler tous les chercheurs qui se mettent au milieu de son passage. Donc c'est vrai que c'est inquiétant, parce que ça paraît un petit peu fantasmagorique, le côté, mais c'est vrai, ce sont des méthodes qui sont, on se croirait dans George Orwell, Empire, quoi. C'est assez inquiétant.
Ça dépasse les clivages politiques, mais le fait est qu'en France, il y avait J'ai rencontré beaucoup chez les socialistes en France des gens qui étaient très pro-GM et qui voulaient rien savoir, etc. Mais il y a eu un débat qui a même pu s'instaurer et finalement, il y a eu une prise de conscience de la part d'un certain nombre d'élus, notamment socialistes, et qui ont dit non, on est en train de faire tout et n'importe quoi. Donc, qui ont un petit peu viré leur cutie. Chez les Verts, c'est le seul parti qui était unanime sur la question. Chez les communistes et la LCR, donc l'extrême gauche, il y a eu effectivement une prise de conscience également de la part d'un certain nombre d'élus. Par contre, chez les députés UMP, il y a ceux qui ont résisté, c'est-à-dire qui ont dit non, on est en train de faire tout et n'importe quoi. Ça a été quelques personnes isolées et qui l'ont payé très cher pour ne pas avoir suivi les consignes de vote. C'est-à-dire que finalement, on s'aperçoit qu'on est soi-disant dans une démocratie représentative, donc où nos élus respectifs devraient voter selon l'avis des concitoyens qu'ils représentent, et en fait ils font un vote d'appartenance. Et on est tombé dans une situation totalement caricaturale où la gauche a voté contre le projet de loi, la droite a voté pour, et puis le centre, le MoDem ou l'UDF hein, en France, s'est abstenu. Voilà, quelque chose de totalement caricatural. Et c'est ça qui est dramatique, c'est qu'on a vu par exemple lors du vote du projet de loi à l'Assemblée nationale en France, du côté de la majorité, donc du côté de l'UMP, hein, la droite, la politique de la chaise vide, c'est-à-dire qu'un certain nombre de députés qui n'avaient pas envie de voter en faveur de ce projet de loi, mais voulaient pas non plus se mettre leur parti politique à dos, leur appartenance politique à dos en votant contre, ont préféré ne pas être là. Et du coup, l'opposition qui est minoritaire à deux reprises a gagné le vote en quelque sorte. Et donc, c'était des étapes intermédiaires. Et donc, à chaque fois, la droite a dû remobiliser ses troupes. Et finalement, ces députés UMP qui n'étaient pas chauds pour voter ce projet de loi ont fini par choisir le vote d'appartenance au prétexte que si demain, ils demandent quelque chose pour leur circonscription, ils risquent de se le voir refuser parce qu'ils n'ont pas joué les enfonçages à un moment donné sur le projet de loi OGM. C'est catastrophique quand même parce que ce sont des gens qui se sont fait élire dans différentes contrées de la France et ça vaut pour toutes les régions européennes où il y a des tas de labels, que ce soit le bio, que ce soit les AOC, les appellations d'origine contrôlée, etc., dans le cahier des charges desquels il est dit zéro OGM, ils se font élire par ces gens-là et ensuite ils vont leur faire un bébé dans le dos en allant voter à l'Assemblée nationale un projet de loi qui demain va autoriser la culture généralisée des OGM et mettre en péril tous ces agriculteurs qui vivent d'un label.
Aujourd'hui, il n'y a pas de principe de précaution. Et au-delà du principe de précaution, c'est qu'aujourd'hui, comme on disait, on est les cobayes et la Terre est un terrain d'expérimentation. Donc sans s'opposer aux OGM, ce que disent les parlementaires, c'était vraiment très majoritaire, prenons déjà du recul. Effectivement, laissons les choses se mettre en place. Et dès qu'il y a eu cette décision donc des parlementaires européens qui a été prise, la Commission a ramené, 5 ou 6 nouveaux OGM à mettre... À vite accélérer le processus pour arriver à mettre en commercialisation ou en agriculture. Donc il y a un vrai décalage entre les parlementaires européens qui représentent aussi les citoyens et la Commission européenne qui sont les ministres. Alors est-ce qu'il y a aussi ce système de chaise tournante ? Enfin, il y a des intérêts derrière qui, c'est vrai, nous échappent un petit peu aussi. C'est-à-dire qu'on arrive en tant qu'association à convaincre les parlementaires. Et nous, on avait interpellé donc des députés, notamment donc en tant que groupe local, des députés alsaciens, des noms, Monsieur Yves Bure, Monsieur Antoine Hert. Donc on a fait une action OGM Ville, donc à Lingolsheim, puisque Monsieur Bure avait voté notamment pour la nouvelle législation sur les OGM. Aucune réponse de son côté. Monsieur Antoine Hert, qui est député Célestat. Donc je l'avais rencontré pour lui parler un petit peu des OGM, du problème de dissémination, etc. Lui, il a quand même un passé d'agriculteur, donc il a quand même aussi une connaissance du terrain, et qui est d'ailleurs le rapporteur sur les OGM. Et sa réponse, qui m'a quand même assez stupéfaite, c'est notamment, il y avait le problème de la coexistence entre l'agriculture conventionnelle bio, le bio, et les agricultures OGM. Je veux dire, à la limite, si on pouvait faire une coexistence, si d'un côté, il y en avait ceux qui veulent consommer OGM, et on arrivait à avoir le champ OGM qui n'est pas de contamination dans notre champ, on pourrait imaginer, la coexistence est impossible. La pollinisation, ça existe, et heureusement, autrement, on ne serait pas là. Il y a le vent, etc., donc ce n'est pas possible. Et lui, sa réponse, oui, mais je ne vois pas pourquoi le bio, il n'y aura pas des OGM dedans. Donc quelque part, effectivement, c'est une sorte de... l'OGM peut être partout. Donc pour lui, ça ne lui pose aucun problème. Et il faut savoir quand même aujourd'hui, ça c'est peut-être des choses, on a beau leur dire, s'il n'y a pas de réponse en face, c'est qu'aujourd'hui, pour les agriculteurs, c'est à peu près 40% de plus de frais au niveau agricole de faire une production OGM qu'une production conventionnelle. Quand on nous parle qu'effectivement pour les paysans c'est mieux, etc., c'est 40% de plus, c'est une dépendance à des firmes, et en plus ça ne sert pas du tout les gens qui meurent de faim ou qui ont besoin de faim, puisque de toute façon ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas de pouvoir d'achat, comme on dit, et c'est pas les produits qui leur reviennent. Donc non seulement ça leur coûte cher, mais en plus ils en sont pas bénéficiaires. Et ça, les députés, ben, en Alsace, c'est vrai qu'on a une sorte de mur. C'est un exemple sur l'Alsace, hein, mais je veux dire, derrière, il y a des intérêts, visiblement.
Oui, c'est la grande déception. Bon, moi personnellement, j'ai jamais fait partie de ceux qui ont mis beaucoup d'espoir dans le domaine de l'environnement. Je trouvais que c'était toujours bien de pouvoir se réunir autour d'une table et il y a eu des choses quand même formidables. Notamment dans le cas de l'intergroupe sur les OGM, puisque c'est de ça qu'on parle. Il y a eu d'abord la phase des discussions du Grenelle et ensuite il y a la traduction politique. Dans la traduction politique, il y a Grenelle 1, Grenelle 2, Grenelle 3. 3 est à venir, le 2 c'est en ce moment, le 1 c'est passé. Et dans le cadre des discussions, il y a eu des choses qui se sont faites de manière très constructive, en tout cas sur l'intergroupe OGM. Sur le nucléaire, par exemple, bon, ça n'a rien donné, ça a été l'opacité totale. Mais dans le cas des OGM, par exemple, il y a eu vraiment des discussions, et on a eu en France, donc dans l'intergroupe OGM, au Grenelle de l'Environnement, M. Jean-François Legrand, sénateur UMP, qui a mené les débats d'une manière remarquable, et qui a réussi à mettre autour de la table des gens qui... C'était pas facile de parier au départ sur le fait d'arriver à les faire discuter ensemble. Et il a réussi, et il a mené à bien les débats. Et ensuite, donc, il y a eu des grandes conclusions qui étaient vraiment très positives. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on a entendu au plus haut sommet de l'État, hein, Nicolas Sarkozy, le président de la République, qui a dit dans son discours de clôture de Grenelle de l'Environnement, pour la première fois, il a désigné les OGM agricoles par leur vrai nom, des plantes pesticides. C'était la première fois. Mais dans le projet de loi qui a suivi, le mot plantes pesticides n'est pas présent une seule fois. Le sénateur Legrand a présidé ensuite la commission d'autorité de la commission la haute autorité provisoire, hein, qui a statué sur le Monsanto 810, hein, puisque donc il était prévu qu'il y ait une transposition nationale de la directive 2018, mais ça prendrait du temps et il fallait décider sur le Monsanto 810 rapidement puisque les semis arrivaient et que le projet de loi serait pas fini avant l'arrivée des semis. Il fallait décider si on refaisait ou pas du Monsanto 810 en France, le seul maïs OGM, la seule plante OGM véritablement commercialisée en Europe, hein. Et donc, Legrand a à nouveau mené les débats de manière extraordinaire. Et il se trouve qu'il y a eu un certain nombre de carences d'évaluation et un certain nombre de données scientifiques qui avaient été jusqu'à présent ignorées ou négligées par les comités précédents, qui ont été prises en considération. Et ça a conduit à émettre des doutes et donc activation de la clause de sauvegarde. Legrand a été laminé. Et d'ailleurs, il s'est exprimé à plusieurs reprises dans les médias là-dessus. Il a été laminé et il a été totalement... vraiment, je ne veux pas parler à sa place, mais il a subi des choses très dures, visiblement. En tout cas, je connais d'autres sénateurs ou sénatrices d'autres partis qui le côtoient sur ces questions-là et qui m'ont dit qu'il avait vraiment, pris plein la figure, qu'il a vraiment souffert de cette histoire. Donc, le sénateur Legrand, qui, lui, a mis... son honnêteté intellectuelle au-dessus de son appartenance politique l'a payé visiblement très très cher. Et en fait, alors qu'il est sorti du Grenelle de l'environnement, une conclusion extrêmement importante qui était que tout un chacun a le droit de consommer ou de cultiver sans OGM, ça s'est transformé dans le texte de loi par tout un chacun a le droit de cultiver ou de consommer avec ou sans OGM. Or, le fait de cultiver avec OGM, ça veut dire de fait empêcher, priver le voisin qui ne veut pas d'OGM, le priver de la liberté de cultiver sans OGM, de consommer sans OGM, parce que le pollen ne s'arrête pas à 50 mètres comme le nuage de Tchernobyl à la frontière franco-allemande et qu'on n'empêchera jamais la dissémination, que ce soit par le pollen, que ce soit par le transport de graines, par les oiseaux, par les rongeurs, que ce soit par les pertes de semences qui tombent des bennes des camions et des bennes des tracteurs, que ce soit par ces graines qui se retrouvent sous les bottes des agriculteurs ou sous les roues des tracteurs ou des camions, la non-séparation des filières dans les coopératives, l'erreur humaine, etc., etc. La coexistence est une vue de l'esprit. Et donc, du coup, le fait de permettre à tout un chacun de cultiver avec ou sans OGM, de fait, ça veut dire, à terme, condamner toutes les cultures labellisées dans le cahier des charges desquelles il est dit zéro OGM.
C'est vrai qu'on est déçu des décisions prises à l'issue du Grenelle de l'environnement. On s'attendait à des mesures qui répondaient mieux un petit peu à ce qu'on nous avait fait miroiter un petit peu avant le démarrage du Grenelle. Et là, à l'issue du Grenelle de l'environnement, Greenpeace est déçu des conclusions qui ont été prises, notamment sur les OGM. On reste très vigilant quant à la levée du moratoire du Monsanto 810. On n'a pas accédé à notre demande de légiférer sur justement l'étiquetage des produits à base d'animaux. Donc finalement, pour l'instant, on voit pas d'avancée. Et nous, ce qu'on demande, hein, on demande de prendre en compte ces contraintes environnementales. On demande de prendre en compte l'avis des consommateurs qui, de façon générale, ne veulent pas voir d'OGM dans leurs assiettes. Et là, pour l'instant, le Grenelle ne répond absolument pas à ces demandes.
Il y a des élus qui disent effectivement, c'est reconnu, on le sait, qu'il y a eu du lobbying de fait de la part des firmes semencières. Mais il y a des députés qui se réfugient en disant « Mais attendez, on a eu aussi du lobbying de la part des anti-OGM. » Alors, tout le problème, c'est la définition qu'on met derrière lobby. Évidemment, on peut considérer que nous, j'en fais partie, de ceux qui ont dit « Mais on est en train de faire tout et n'importe quoi et on ne peut pas voter ce projet de loi en l'état. » Puisque c'est finalement, à terme, autoriser la dissémination, la contamination généralisée. Eh bien... On peut dire qu'on fait aussi du lobby. Sauf que, je ne vais pas faire ici un discours de sémantique sur le lobby, j'en serais bien incapable, c'est très compliqué d'ailleurs, mais il y a une différence entre faire du lobby pour des intérêts privés et défendre des intérêts publics. Et l'infirme semencière est bien là pour défendre des intérêts privés. Ceux qu'on appelle les anti-OGM qui viennent dire non, il ne faut pas voter ce projet de loi parce qu'ils défendent l'environnement et ils défendent les générations futures et la santé des consommateurs, je ne crois pas que ce soit de l'intérêt privé, c'est de l'intérêt public. Donc ce n'est pas à mettre dos à dos. Et donc, évidemment, ce n'est pas la même chose. Et on ne peut pas dire, mais de toute façon, il y avait les deux camps qui étaient représentés. Non, et puis on n'a pas les mêmes moyens. On n'a pas les mêmes moyens et ça ne se passe pas de la même manière. Et il est clair qu'il y a un certain nombre d'élus qui ont subi des pressions, et Jean-François Legrand en a parlé. Et ça lui a valu d'ailleurs aussi des problèmes d'avoir dit ça publiquement, qu'il y avait un certain nombre d'élus qui subissaient donc des pressions de la part des firmes semencières. Parmi les scientifiques, on va trouver une majorité de pros ou une majorité d'anti en fonction du domaine de la science. Si vous allez dans le domaine de l'écologie, vous allez plutôt avoir des gens réticents. Si vous allez dans le domaine de la biologie moléculaire, des bidouilleurs d'ADN comme moi, par exemple, je suis dans ma discipline, chez les généticiens moléculaires, qui sont favorables aux OGM. Mais ils le sont, je pense, en toute sincérité, en toute honnêteté. Tout simplement parce qu'il faut voir une bonne chose, c'est que la technologie OGM, je vous le disais dans mon introduction, on l'utilise à tour de bras dans les laboratoires quand on fait de la recherche fondamentale. Et qu'à partir du moment où on l'utilise à tour de bras, c'est pas propre à la technologie OGM et c'est pas propre à la science, il y a une banalisation du risque. Vous savez, la première fois qu'on utilise une machine dangereuse, donc on fait un geste dangereux, on met le casque, on met les chaussures de sécurité, on met les gants, on met les lunettes de protection, on met tout. Et puis le jour où on devient à l'aise parce qu'on fait ça tous les jours, etc., et qu'on maîtrise le geste ou la machine, eh bien on oublie les chaussures de sécurité, on oublie le casque, et c'est toujours tout aussi dangereux. Et c'est pas parce qu'on maîtrise un geste qu'on en maîtrise les conséquences. Et donc il y a effectivement une banalisation du risque qui fait que les gens voient pas où est le problème. Et s'ajoute à ça le fait que nous sommes moulés à la louche. On fait 10 ans d'études, grosso modo, 8 ans minimum, pour être docteur, c'est 8 ans. Pour être chercheur, donc, un chercheur, c'est un docteur, donc il y a 8 années d'études. Sur ces 8 années d'études, on n'a pas une seule heure de philo, on n'a pas une seule heure d'éthique des sciences. Les problèmes de science-société ne sont pas abordés. On est moulé à la louche avec une tendance à penser que tout ce qui sort d'un laboratoire est forcément bon pour l'humanité parce que c'est le produit d'une activité de recherche. Et ça pèse extrêmement lourd dans l'attitude du scientifique. Et donc, on nous apprend à être critique vis-à-vis des expériences, mais l'esprit critique s'arrête à la surface de la paillasse ou le soir quand on quitte la blouse. Vous voyez ? Et donc, ça pèse très lourd. Et c'est-à-dire qu'on est formé pour penser, on finit par penser que la science va tout résoudre, que la science est la solution à tous les problèmes. Vous savez, on est dans la science-religion, dans le scientisme. Et donc ça, c'est extrêmement important. C'est typiquement le comportement de Claude Allègre, qui d'ailleurs s'y connaît autant en OGM que Thierry Roland dans ce classique, mais qui la ramène tout le temps sur la question, mais qui est persuadé. Je ne pense pas qu'il ait des conflits d'intérêts, Allègre, là-dessus, sur les OGM. Mais il incarne parfaitement la science-religion. C'est-à-dire, la science va tout résoudre. La science est synonyme de progrès, etc., etc. Et ça pèse très, très lourd. Et quand on arrive à discuter avec certains collègues, par exemple, des problèmes des plantes, des problèmes des OGM, etc., eh bien, moi, je fais beaucoup de conférences grand public. Il m'est arrivé de faire des conférences à proximité de l'université où je bosse, dans un village à côté, où il y a beaucoup de collègues qui habitent. Et du coup, par curiosité, des collègues sont venus m'écouter pour dire, tiens, comment il s'y prend pour expliquer ça au grand public? Et puis, je me suis dit, ça va être chaud le débat, parce qu'il y avait 50% de personnes, grand public, qui n'y connaissaient rien aux OGM, et puis 50% de collègues qui s'y connaissaient aussi bien que moi, en tout cas sur le plan technique. Mais quand j'ai abordé tous les aspects sociétaux, tous les aspects sanitaires, etc., mes collègues sont venus me voir à la fin en me disant, mais Christian, il y a des tas de choses qu'on n'imaginait pas. Et vous me disiez pourquoi, sur le plan sanitaire, par exemple, quand on dit que 3 mois, c'est insuffisant pour l'évaluation, parce que c'est des plantes pesticides, mais plein de collègues ne savent pas que ce sont des plantes pesticides. Et plein de collègues ne savent pas que ces plantes accumulent de l'herbicide ou accumulent de l'insecticide. Et puis vous prenez la plante BT comme le Monsanto 810, on vous dit, mais au moins d'accord, mais cette plante, où est le problème? Même si elle produit beaucoup plus de toxines BT que la quantité pulvérisée dans la méthode conventionnelle, c'est pas grave, puisque cette toxine BT provient d'une bactérie du sol qui est autorisée en agriculture biologique. Donc c'est pas un souci. Mais ce que savent pas les collègues, alors que pourtant ils le pratiquent au quotidien, mais ils font pas la transposition, c'est que le gène qu'on introduit de la bactérie dans le maïs n'est pas le gène naturel de la bactérie. Pour des raisons techniques, on est obligé de modifier légèrement ou beaucoup d'ailleurs, hein, des fois la modification va jusqu'à 40% du gène naturel, hein, c'est-à-dire qu'il est 40% différent de ce qu'il est normalement. On est obligé de le modifier, c'est-à-dire que même si le langage génétique est universel dans le monde du vivant, il y a des petites choses qui sont pas comprises d'un organisme à un autre et qu'il faut changer. Et donc le gène de bactérie qu'on va introduire dans le maïs, il va falloir lui enlever des petits bouts pour les remplacer par des petits bouts de gènes de plantes qui par définition sont reconnus dans la plante, ou par des petits bouts de gènes de virus de plantes qui fonctionnent également par définition dans la plante. Et donc ce qu'on introduit in fine dans le maïs, ce n'est pas le gène naturel de la bactérie, c'est une chimère génétique qu'on appelle dans notre jargon une CGA, une construction génétique artificielle. C'est-à-dire une juxtaposition de plusieurs bouts de gènes, dont le principal composant est bien sûr le gène de bactérie, qui va donner la protéine BT, la toxine BT qui va donc être produite dans le maïs. Mais pas seulement, il y a également d'autres bouts de gènes étrangers. Et le fait que le gène ne soit pas le gène naturel mais le gène modifié fait que la protéine fabriquée par le maïs n'est pas identique à la protéine fabriquée par la bactérie. Et la preuve, c'est que le Monsanto 810 fabrique une toxine qui est soluble, alors que la toxine BT qui tue la pyrale naturellement, qui est fabriquée par la bactérie du sol et qui est autorisée en agriculture biologique, n'est pas soluble mais cristalline. Elle est sous forme de cristal. Et le fait qu'elle soit soluble et non pas cristalline dans le maïs fait qu'elle est active non seulement contre la pyrale, mais contre un autre insecte ravageur du maïs qui s'appelle la sésamie, pour le plus grand bonheur du semencier qui du coup a un maïs qui permet de lutter non pas contre un insecte mais contre deux. Le problème, c'est qu'on a un nouvel insecticide fabriqué par le maïs, qui a des nouvelles propriétés physico-chimiques, qui a un nouveau spectre biologique et qui, au prétexte qu'il serait identique à l'insecticide fabriqué par la bactérie du sol, n'a jamais fait l'objet d'une évaluation à part entière comme nouvel insecticide. Et bien ça, des tas de collègues l'ignorent et l'ignoraient pour ceux à qui je l'ai raconté. Mais beaucoup l'ignorent. Et j'ai vu des grands débats avec des collègues où quand on leur dit ça, ils disent « Ah bon, elle est à ce point-là modifiée, la protéine ?» Alors comme on peut leur parler techniquement des raisons pour lesquelles elle est modifiée, ils comprennent bien effectivement. Et je dis « Ben oui ». Et quand on explique, enfin je ne suis pas le seul à le dire, heureusement. Hein, on n'est pas nombreux à s'exprimer comme ça publiquement, mais on est quand même nombreux à alerter d'une manière ou d'une autre dans le monde scientifique, dans le monde entier, heureusement. On est minoritaire à s'exprimer haut et fort. On est une toute minorité, ça c'est sûr. On est aussi une minorité à dire « ça va pas », même sans prendre, même que ce soit même à l'intérieur des murs des labos, tout simplement pour les raisons que je viens d'évoquer, parce que la grande majorité est moulée à la louche. Et que si on n'a pas une expérience ou une aventure personnelle qui fait qu'on s'intéresse aux problèmes, aux aspects sociétaux de la science, et on n'est pas du tout préparé à ça par nos études, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, on n'a pas cette sensibilité, et donc, on ne se pose pas ces questions-là. Souvent, ces gens-là qu'on voit sont souvent des gens qui ont des conflits d'intérêts. Hein ? Qui prétendent ne pas en avoir, hein, qui se présentent toujours, qui se réfugient derrière une virginité de la science qui n'existe pas, hein, derrière une neutralité de la science qui n'existe pas. La science n'est pas neutre. La science peut être neutre dans son fondement, c'est-à-dire dans sa mission première qui est l'acquisition et la diffusion des connaissances, mais à partir du moment où la science répond à un modèle de société, elle n'est pas neutre. Et donc, se réfugier derrière une neutralité de la science, c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles. Mais on dit, souvent j'ai participé à des débats où j'étais présenté comme l'anti-OGM, et puis, je l'assume, hein, puisque sur les OGM agricoles, c'est clair, je suis contre dans les champs et dans les assiettes, et je dis pourquoi. Mais le collègue qui faisait la contradiction, souvent, quand on le présente comme le pro-OGM, il dit, non, moi je ne suis pas pro-OGM, vous savez, moi je suis ni pour ni contre. J'ai envie à chaque fois d'ajouter, bien au contraire, comme disait Coluche, hein, mais j'ai rien à vendre, moi je suis là pour le scientifique, pour expliquer. En réalité, c'est le plus beau VRP de tous les OGM. Hein. Simplement, c'est extrêmement malhonnête parce qu'on se réfugie derrière la neutralité de la science pour donner plus de crédit aux arguments alors qu'ils sont là pour faire passer les messages et pour dire pour absolument vendre les OGM. Donc ça, je supporte pas. Et ce sont ces gens-là qu'on entend. Alors c'est typiquement des gens comme Kuntz, comme Oudbin, comme Joudrier, etc. Toujours les mêmes qu'on entend qui viennent sur les plateaux et qui viennent vanter les OGM et qui se réfugient derrière une association qui s'appelle l'AFI, Association française pour l'information scientifique, hein, qui appartient au mouvement rationaliste et qui dit voilà, nous on est là pour expliquer les choses, pour dire la vérité et sans prendre parti pris. Alors que ce sont des gens qui ont signé une pétition contre le moratoire sur le Monsanto 810, contre l'activation de la clause de sauvegarde. Hein. Alors moi je veux bien qu'ils soient neutres, hein, mais à ce moment-là, ça doit leur faire ni chaud ni froid qu'on cultive des OGM ou qu'on n'en cultive pas. Or, ils ont signé une pétition pour qu'on en cultive. Et ils ne l'ont pas signé en tant que citoyen tartemuche. Ils l'ont signé en tant que chercheur du CNRS, de l'INRA ou de l'INSERM. Et là, comme par hasard, les institutions n'ont rien trouvé à redire. Par contre, il suffit que quelqu'un comme moi s'exprime haut et fort dans les médias pour dire qu'on est en train de prendre les citoyens pour des cobayes et la planète pour une paillasse de laboratoire, donc de faire une mauvaise publicité aux OGM pour dire ah non, il n'est pas dans l'appréciation scientifique, c'est un partisan, voire un militant. Et il faut absolument lui taper dessus. Voilà, donc on a vraiment deux poids, deux mesures. Et ce dont vous parlez, qu'on voit sur les plateaux télé, c'est essentiellement, pas tous, parce qu'il y en a aussi, j'en connais quelques-uns quand même qui s'expriment en public, comme Antoine Messéan, qui est quelqu'un d'extrêmement honnête, Yves Chupot, avec qui j'ai débattu, directeur de l'INRA de Versailles, qui est quelqu'un également que j'apprécie beaucoup. On n'est pas d'accord, mais c'est quelqu'un, je ne suis pas d'accord sur les arguments, mais ses arguments sont sincères. C'est pas, il n'est pas dans le mensonge. Or, quelqu'un comme Wismar Youbin, avec qui j'ai débattu à plusieurs reprises, il est dans le mensonge. Il maintient, par exemple, que tous les OGM ont fait l'objet d'évaluations sanitaires extrêmement sérieuses, etc. Et que tous les OGM ont été évalués à au moins 3 mois, ce qui est faux. Il y a les OGM qui n'ont pas été évalués, d'abord c'est jamais plus de 3 mois, et le maïs BT11 par exemple n'a jamais été évalué à 3 mois. Le maïs BT11 qui est un maïs de Syngenta, on a demandé à moi je fais partie du CRIGEN, hein, du comité de recherche et d'information indépendante sur le génie génétique, qui est présidé par Corinne Lepage, on a demandé au ministre d'Agriculture français de l'époque, M. Bussereau, de nous donner les résultats des analyses à 3 mois, il nous a opposé le secret industriel, on a saisi la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs, qui nous a donné raison. Donc on a réécrit, Mme Lepage a réécrit à M. Bussereau en disant, ben voilà, vous devez nous donner les résultats des tests à plus de 80 jours sur les rats. Et il nous répond, j'ai la lettre, hein, je peux la donner à qui veut. Il nous répond, on ne peut pas vous donner les tests à plus de 80 jours parce qu'ils n'ont pas été demandés, ils n'existent pas. Hein. Et vous avez ensuite un mec comme Oudbin qui, dans les plateaux de télévision, vous dit, si tous les OGM ont été évalués à 3 mois. Ce qu'il faut. Voilà, donc on est dans le mensonge. Alors moi je veux bien qu'on soit pas d'accord, la contradiction c'est ce qui fait respirer la démocratie, mais à partir du moment où on est dans le mensonge, le débat est biaisé. Et donc voilà, donc après encore une fois, tous les autres scientifiques souvent disent il n'y a pas de problème avec les OGM, mais en toute sincérité, en toute honnêteté, parce qu'ils ignorent un certain nombre de choses et c'est lié à notre formation qui fait qu'on est, on voit pas plus loin que le bout de notre éprouvette. J'ai subi des pressions de la part de ma hiérarchie directe, dans la direction de mon institut, l'Institut de génétique et microbiologie, hein, à Orsay, parce qu'on m'a reproché, mot pour mot, de impliquer mon institution dans ma croisade anti-OGM. Alors que, d'abord, il ne s'agit pas d'une croisade anti-OGM, il s'agit d'une information citoyenne. Et le fait est que, encore une fois, je ne me cache pas derrière mon petit doigt, je suis contre les OGM dans les champs et dans les assiettes parce qu'on ne maîtrise rien de cette technologie et qu'il n'y a aucune utilité sociale qui justifie qu'on aille aussi vite dans l'évaluation et qu'on prenne ainsi, encore une fois, les citoyens pour des cobayes. Mais moi, je fais de l'information et je la fais au nom de Christian Vélo. Ce n'est pas mon institution qui parle. Quand je vais témoigner dans les procès de faucheurs volontaires pour la défense, c'est Christian Vélo qui parle et pas le CNRS et pas l'université et pas l'Institut de génétique et microbiologie. Mais on m'a dit, si, on vous a vu à la télé et avec votre institution qui l'institution qui apparaît sous votre nom, sous ma figure. Ben oui, moi je m'appelle pas Claude Allègre, hein, je justifie de mes compétences à parler du sujet, c'est-à-dire donc de ce que je fais dans la vie, hein, sur le plan professionnel. Si je parle des OGM en tant que citoyen d'Île-de-France, tout le monde s'en fout. Si j'en parle en tant que généticien moléculaire, ça peut intéresser les gens. Donc évidemment, je justifie, ça n'implique pas que je parle au nom de mes tutelles. Et suite à ces remontrances verbales qui se sont faites de plus en plus récurrentes et blessantes, hein, on est allé jusqu'à me dire que je salissais la science à une époque où les étudiants désertent les filières scientifiques, quand on sait à quel point je m'investis, et j'ai d'ailleurs un très bon retour de mes étudiants qui ont d'ailleurs signé une pétition pour me soutenir, c'est dire s'ils sont masos, quand on connaît le retour que j'ai de mes étudiants, m'accuser de ce genre de choses, ça fait extrêmement mal. Et donc, ça fait extrêmement mal et par conséquent, bon, c'était très blessant. Mais si à la limite, bon, ça avait été que des attaques comme ça à morale, bon, on peut arriver à surmonter. Enfin, même il y a des gens qui, ça suffit pour les déglinguer, hein, donc ça peut être très grave. C'est du harcèlement moral. Mais il y a eu des pressions matérielles derrière, c'est-à-dire que j'avais des reliquats de crédit qui devaient me permettre de finir mon contrat quadriennal, parce qu'on fonctionne sur des contrats de 4 ans dans la recherche publique, hein, contrats quadriennaux. Donc nous, on est en phase 2006-2009, ça fait 4 ans. Ça s'arrête fin 2009. Donc 2008-2009, j'avais des reliquats de crédit pour fonctionner sur ces deux dernières années de mon contrat. Ces 22 000 euros de crédit m'ont été suspendus au prétexte de soi-disant problèmes financiers dans l'Institut. On m'a pris 100% de mes crédits qui me restaient, donc plus rien pour travailler en 2009. Et puis au bout du compte, j'ai reçu un courrier me disant que j'étais remercié de l'Institut à partir du 1er janvier 2010, c'est-à-dire à partir de la date de renouvellement du contrat qui nous lie au CNRS, hein, et en prétextant que j'étais pas d'accord avec la politique scientifique de l'Institut. Donc une décision totalement arbitraire, j'ai décidé de mettre ça dans les mains des médias, d'abord parce qu'on était en plein Grenelle de l'environnement, que l'une de mes conférences didactiques avait servi de support à l'intergroupe OGM, et qu'il était question dans le Grenelle de l'environnement, au niveau notamment du groupe gouvernance, eh bien, de la liberté d'expression des chercheurs et de la protection de ceux qu'on appelle les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire des gens comme moi qui vont alerter le grand public sur des carences d'évaluation, sur des risques inconsidérés, etc. Sans forcément avoir la démonstration, mais simplement sur le risque que l'on fait encourir ou sur le fait qu'on n'évalue pas sérieusement les choses. Et à partir de là, on était en plein Grenelle de l'environnement, la mayonnaise a pris, et donc ça a pris une ampleur médiatique qui en fait m'a protégé. Et mais ce que je voulais faire à travers cette couverture médiatique, c'était certes me protéger, parce que nos institutions ont horreur de la lumière, mais c'était surtout faire avancer justement le problème de protection des lanceurs d'alerte. Parce que au-delà de la protection des personnes, qui est évidemment une énorme injustice d'être sanctionné parce que on ne fait que notre travail de chercheur du service public que d'informer les citoyens sur des sujets qui nous sont présentés comme de simples avancées technologiques et qui sont en fait des véritables choix de société, comme les OGM, eh bien au-delà de cela, il s'agit d'un problème de démocratie et d'un problème de transparence et d'information du plus grand nombre sur des risques sanitaires et environnementaux. Et donc, il y a énormément de collègues qui, dans le passé et aujourd'hui encore, subissent de graves pressions de leur hiérarchie parce qu'ils font leur devoir en alertant. Et comme il n'y a pas de dispositif d'alerte en France, eh bien, c'est une personne toute seule qui le fait. Et cette personne toute seule s'expose par conséquent à des pressions extrêmement importantes. Dans le privé, ça peut aller jusqu'au licenciement. Dans le public, jusqu'à la mise au placard. C'est ce qui a failli m'arriver ou qui va peut-être encore m'arriver, j'en sais rien. Et donc, du coup, eh bien, je me suis dit, si je dois payer de ma carrière, il faut au moins que ça fasse avancer cette chose-là. Et on était en plein Grenelle de l'environnement pour le faire. Alors, il y a aujourd'hui, ça fait partie des conclusions du Grenelle de l'environnement, soi-disant, ça a été acté par le Grenelle de l'environnement, une protection des lanceurs d'alerte, hein, dans le cadre de l'indépendance de l'expertise et de l'alerte. Il se trouve que autant la transposition politique du projet de loi sur les OGM a été très timide par rapport aux conclusions du Grenelle de l'environnement, autant la traduction politique de la protection des lanceurs d'alerte s'avère extrêmement timide par rapport aux engagements du Grenelle de l'environnement. Donc on ne se fait pas trop d'illusions. Corinne Lepage a été mandatée par Jean-Louis Borloo pour faire un rapport sur les lanceurs d'alerte et proposer donc faire une proposition, hein, pour un texte de loi protégeant les lanceurs d'alerte. Elle a fait un travail extraordinaire et extrêmement précis. Également, la sénatrice Marie-Christine Blandin a également beaucoup travaillé sur la question, continue d'y travailler en tant que membre de l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques, et sénatrice. Et malheureusement, Jean-Louis Borloo, d'après les dires de Corinne Lepage, elle se fait peu d'illusions sur ce que Jean-Louis Borloo va retenir de ses propositions, parce que notamment le MEDEF s'y oppose. Parce que protection des lanceurs d'alerte, c'est une atteinte au principe de subordination. Et donc on se fait peu d'illusions sur la traduction politique. Il y a encore des gens qui croient dur comme fer, comme André Cicolella. Et d'ailleurs, je rends hommage à son optimisme. Et c'est quelqu'un qui ne se décourage jamais et qui ne baisse jamais les bras. Mais j'ai peur, malheureusement, que son optimisme soit au-delà de la réalité.
Qu'à un moment donné, quand on est à une date, on est à un moment où on a quand même beaucoup d'études, beaucoup d'expertises qui nous disent attention à cette dissémination massive des OGM. Face à ça, on a des lobbies très puissants, des entreprises très fortes avec une forte capacité financière, de persuasion et autres. En face, on a des associations avec des moyens qui sont moindres, qui veulent dire attention. Attention, pas pour moi, mais attention pour nous tous, attention pour les générations en futur, attention pour l'environnement, attention pour les pays en voie de développement qui sont sous la manne de ces grandes entreprises. Et alors, qu'est-ce qu'on a comme moyen? On a le moyen d'alerter la population, et qu'est-ce qui nous reste? Malheureusement, ce sont des actions médiatiques qui intéressent le citoyen, qui vont intéresser le journaliste. Mais en fait, on est obligé de passer par des moyens de communication qui ont prouvé un peu leurs limites. On peut quand même dire que grâce à la fauche de ces parcelles d'OGM, le débat ne vient pas de l'État, bien sûr, mais vient au moins du milieu associatif, vient des citoyens qui disent « Attendez, moi, je ne veux pas... » Je ne veux pas voir ces OGM à côté de chez moi.
Le lanceur d'alerte, c'est une personne qui n'est pas forcément un chercheur, mais qui peut être un citoyen, un groupe de citoyens qui, de par son activité professionnelle, associative, militante, etc., prend conscience d'un risque, en informe le plus grand nombre. Bon, Étienne Sandrier n'est pas un chercheur, il est informé sur le problème des antennes relais, etc., etc. Maintenant, vous me parlez des faucheurs volontaires, par exemple, parce que vous parlez de désobéissance. Alors, moi, ça ne me gêne pas de les appeler des lanceurs d'alerte. Moi, je les appelle plutôt des éveilleurs de conscience, c'est-à-dire qu'ils ont permis de prendre conscience. Et cette prise de conscience permet parfois ensuite, même aux chercheurs, parce que de prendre eux-mêmes conscience d'un problème, de l'étudier un peu plus en détail, et donc du coup de réaliser qu'il y a une carence d'évaluation et d'alerter. Donc je dirais plutôt que les faucheurs d'OGM sont des éveilleurs de conscience qui ont permis de faire en sorte que des alertes existent ensuite. Alors, on peut jouer sur les mots, mais pour moi, ce sont des éveilleurs de conscience. Alors évidemment, on peut dire, cette désobéissance civique, est-ce qu'elle est justifiée, etc., etc. Alors chacun en pense ce qu'il veut, mais il faut bien voir que quoi qu'on pense des fauchages d'OGM, s'il n'y avait pas eu les fauchages, vous ne serez probablement pas en train de m'interviewer. Il n'y aurait pas tous les articles que l'on a connus depuis 10 ans sur les OGM. Il n'y aurait pas eu un intergroupe spécial sur les OGM au Grenelle de l'environnement. Il n'y aurait pas eu l'activation de la clause de sauvegarde, etc., etc. C'est-à-dire que si aujourd'hui tout un chacun peut se demander ce qui se cache derrière les trois lettres OGM, c'est bien parce que le débat n'est pas passé sous la moquette. Et si le débat n'est pas passé sous la moquette, c'est parce qu'il y a eu des actions médiatiques. C'est un mal nécessaire, c'est évidemment, et les faucheurs, je ne connais aucun faucheur qui fauche par plaisir.
Par exemple, quand il y a eu du maïs médicament de faucher en Auvergne, et qu'il y a eu un procès contre les faucheurs, à Clermont-Ferrand, mais ce qu'on n'a pas dit M. Poujadas dans son journal de 20h, c'est que parmi les témoins du procès, j'en faisais partie, il y avait une dame dont l'enfant est atteint de la mucoviscidose. Si je vous dis cette dame, elle est venue témoigner pour méristème thérapeutique ou pour les faucheurs volontaires, vous allez me dire, elle est venue témoigner pour méristème. Eh bien non, elle est venue témoigner pour les faucheurs. Et elle a dit, voilà, moi je suis faucheuse volontaire, mon fils est atteint de la mucoviscidose et il porte le t-shirt des faucheurs. Et je ne veux pas que la guérison de mon fils soit au prix d'un risque environnemental inconsidéré et d'un autre risque pour les autres enfants, pour les autres humains, parce que je sais que ce médicament, on peut le produire en laboratoire, par technologie OGM, en espace confiné. Ça, Poujadas ne l'a pas dit dans son 20h, et je peux vous dire que ça a pesé très très lourd dans le verdict. Parce qu'au pays du Téléthon, on s'attendait à ce qu'il y ait la prison ferme, et ils n'ont eu qu'un mois de prison avec sursis, ce qui était déjà beaucoup, mais en tout cas, ça a été peu, d'ailleurs ils n'ont pas fait appel.
Ils le font par devoir, voilà, par devoir d'alerte, par devoir de parce qu'ils mettent au-dessus de l'intérêt privé les intérêts publics, le bien commun qu'est l'environnement et le respect des générations futures. Et bien souvent sans le savoir, et c'est aussi pour ça que je les respecte beaucoup, et que je vais les défendre devant les tribunaux, ils se battent souvent pour une autre science, c'est-à-dire que ce ne sont pas des anti-sciences, mais ce sont des alters scientifiques. Ils se battent pour une autre science, une science plus démocratique, plus citoyenne, plus transparente. Et je fais moi-même partie de Fondation Science Citoyenne, qui a été présidée par Jacques Testard, qui en est un des cofondateurs, avec André Cicolella. Jacques Testard en est aujourd'hui le secrétaire. Eh bien, Fondation Science Citoyenne se bat pour rendre la science soluble dans la démocratie. Et on a besoin des citoyens, évidemment, pour ça. On a besoin des scientifiques, mais on a besoin des citoyens. Et des actions comme les faucheurs volontaires sont typiquement dans cette démarche. Donc, et par exemple, quand ils sont venus me soutenir à Orsay par rapport aux pressions que j'ai subies suite à mes prises de position publique, c'est la première fois que l'on voyait des militants de la société civile venir sur un campus défendre un chercheur. Ils n'étaient pas là pour s'en prendre à la science. Ils étaient là pour demander plus de transparence dans la science et pour faire en sorte qu'un scientifique qui n'a fait que son devoir d'information citoyenne soit reconnu par ses pairs et non pas bafoué par ses pairs. Donc c'est vraiment quelque chose qui est... C'est un combat qui est plus qu'un combat pour l'environnement, pour la santé publique. C'est un combat pour une autre science, pour une science vraiment, pour des passerelles entre la recherche institutionnelle et ce qu'on appelle le tiers secteur scientifique, c'est-à-dire le monde associatif, les citoyens, etc. Donc voilà, c'est, pour moi, c'est vraiment des personnes, je fais profil bas parce que vraiment, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Ils prennent en plus des risques énormes.
Faucher les OGM, c'est empêcher la dissémination, puisque la dissémination se fait par le pollen, la pollinisation et par le vent. Coucher et donc détruire un champ, c'est empêcher cette dissémination. Et il suffit de quelques années, finalement, pour arriver à coloniser entièrement le pays ou des régions entières, notamment dans le sud-ouest. Quand on voit que le Paraguay, qui ne voulait pas d'OGM, a été contraint d'ouvrir ses portes aux OGM, parce que les OGM étaient arrivés de façon par pollinisation, par le vent. Donc aujourd'hui, quelque part, laisser les champs de maïs en disant « oui, on va effectivement faire une réflexion, des débats, etc. Ben, » en attendant, c'est permettre cette pollinisation, c'est permettre cette dissémination des OGM. Et donc finalement, c'est un acte concret. Ben, pour l'instant, il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu quoi que ce soit. Ben, on arrête les OGM, donc la seule solution aujourd'hui, c'est la fauche.
Contrairement aux pro-OGM qui disent c'est pas la peine de faire les expériences parce qu'on connaît déjà les résultats, nous on dit faut faire les expériences. Et aujourd'hui, on est dans une carence d'évaluation, comme je l'ai expliqué. Alors faut être cohérent. Si on est dans une carence d'évaluation pour prouver que les OGM sont inoffensifs, on est aussi dans une carence d'évaluation pour prouver qu'ils sont dangereux. Hein. Mais on dit simplement qu'au regard des résultats auxquels on a pu accéder aujourd'hui, on a suffisamment d'éléments pour penser qu'il y a des problèmes, en tout cas qui nécessitent soit de mettre l'OGM au placard en disant il n'y a pas d'utilité sociale, alors principe de précaution et on arrête tout, soit exiger que cet OGM soit réévalué sur des temps beaucoup plus longs par des laboratoires de recherche indépendants jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune ambiguïté, que ce soit dans le sens de la toxicité ou dans le sens de l'innocuité. Or, on n'en est pas là. Et quand je dis qu'on a des éléments sérieux pour penser qu'il y aura des problèmes sur la santé, c'est que les quelques tests à 3 mois, auxquels qui sont déjà insuffisants parce qu'on ne voit que les effets aigus et pas les effets chroniques, mais les quelques tests à 3 mois auxquels on a pu accéder grâce à Greenpeace, comme je l'expliquais en Allemagne sur le Monsanto 863, nous montrent que ces OGM, sur les rats nourris avec ces OGM pendant 3 mois, il y a des effets, notamment qui témoignent d'une toxicité hépatorénale, c'est-à-dire des perturbations au niveau du foie et au niveau des reins, qui, comme par hasard, sont les deux organes de détoxification. Et on voit des effets différents selon les sexes. Et le fait... Alors, Monsanto avait vu ces effets sur le foie et sur les reins. Il les a pas niés. Mais la conclusion du laboratoire Monsanto, qui a été reprise par l'Agence européenne de sécurité alimentaire, l'EFSA, à son propre compte, ça a été de dire « ces tests sont statistiquement significatifs, mais biologiquement non significatifs ». Et pourquoi a-t-il dit qu'ils étaient biologiquement non significatifs ? Eh bien, tout simplement parce qu'on n'avait pas les mêmes effets chez les rats mâles et chez les rats femelles, ce qu'on a vu effectivement. Les femelles ont qui ont mangé de l'OGM par rapport aux femelles qui n'en ont pas mangé ont une augmentation des triglycérides et du globule rouge, pas les mâles. Les femelles ont une augmentation de la taille du foie, pas les mâles. Les mâles ont une diminution de la taille des reins, pas les femelles. Les mâles ont une excrétion plus importante de phosphore et de sodium dans les urines, pas les femelles. Les femelles ont tendance à grossir, les mâles ont tendance à maigrir. Donc globalement, on nous dit, c'est bon. Vous voyez, c'est comme si on prenait un homme, qu'on lui mettait la tête dans un four à micro-ondes, les pieds dans un bloc de glace, et qu'on disait, il n'y a pas de problème, parce que la température sur le nombril est bonne. C'est-à-dire, c'est scandaleux. N'importe quel toxicologue qui voit des effets liés au sexe entre des hommes et des femmes, des garçons, des filles, des mâles, des femelles, suite à un traitement, suite à une nourriture, la première chose qu'il soupçonne, c'est les voies hormonales sexuelles, qui par définition ne sont pas les mêmes dans les deux sexes. Or, on sait que les pesticides sont des perturbateurs endocriniens, et donc qu'ils agissent sur les voies hormonales sexuelles, ça a été démontré. Eh bien, il n'y a eu aucun dosage hormonaux. Et on a dit, cet OGM, il est bon à l'alimentation animale et humaine, et il a été autorisé à l'alimentation animale et humaine en Europe. Il n'est pas cultivé en Europe, mais il est cultivé aux États-Unis, et on peut le retrouver sous forme d'aliments pour les animaux ou d'aliments humains dans les étals, donc sous forme de produits importés à partir des États-Unis. C'est scandaleux.
Ce qui est inquiétant, c'est que ça aboutit effectivement au niveau du végétal. Pourquoi ça n'aboutira pas au niveau de l'animal ? C'est-à-dire que derrière, il y a des intérêts, il y a un lobbying énorme. Quand on voit aujourd'hui que même le nouveau président Obama aujourd'hui finalement est directement lié à la filière OGM par son directeur de cabinet, on voit que finalement il y a des intérêts derrière, qui l'indépendance est assez douteuse, et en plus il y a toute une communication qui veut faire croire qu'effectivement les OGM ont des caractères bénéfiques, donc bénéfiques pour la faim dans le monde, bénéfiques pour la résistance le problème des herbicides, effectivement c'est plus simple pour le paysan en apparence. Donc finalement, les politiques, c'est une avancée. Alors qu'en fait, il y a un impérialisme derrière.
On est dans une situation de carence, d'évaluation encore une fois, et qui est très grave parce qu'on a tout à craindre que demain, il y ait un grand scandale sanitaire et que le 21e siècle verra peut-être comme parmi les grands scandales sanitaires, celui des OGM. En tout cas, j'espère avoir tort, mais j'ai peur d'avoir raison. Et c'est pour ça que moi, avec d'autres, on se bat pour qu'on n'en arrive pas là et qu'on tire profit des expériences du passé et qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs que celles qui ont été faites avec l'amiante, la dioxine, etc., où les grands académiciens des sciences et de médecine nous ont dit « dormez tranquille, on s'occupe de tout.
OGM, la grande manip, avec Christian Vélo, enseignant, chercheur en génétique moléculaire à l'Université Paris-Sud, Franck Schrafstetter et Isabelle Stéphan, Greenpeace France. Merci également à tous les anonymes passant dans la rue qui ont accepté de nous parler des OGM.